Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes présentes et présents au Centre Sèvres. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans les villes de province auxquelles nous sommes reliés, soit par le son, soit par le son et par l'image. Et bonsoir également aux auditeurs de RCF pour lesquels cette soirée est retransmise. Ce mardi d'éthique publique est consacré à la question du baccalauréat sous le titre « Le baccalauréat aura bien lieu » parce que il y a une vingtaine, trentaine d'années, un ouvrage avait suscité un certain émoi. Il était intitulé « Le baccalauréat n'aura pas lieu ». C'était un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale qui avait écrit cette fiction. Et alors, cela montrait comment, si le baccalauréat, une année, n'avait pas lieu, eh bien, cela entraînerait toutes sortes de conséquences plus catastrophiques les unes que les autres. Et donc, soyons rassurés, le baccalauréat aura bien lieu. En France, le baccalauréat est d'ailleurs un des sujets, avec la composition de l'équipe nationale de football ou la laïcité, qui déchaîne à coup sûr les passions. Les linguistes n'ont même pas réussi à se mettre d'accord sur l'étymologie du terme. Fut-il inventé par François Ier pour instituer un nouvel ordre de chevalerie, de type universitaire et non seigneurial? Est-il plutôt lié au Moyen-Âge, comme dans la langue anglaise, à l'émergence de l'homme jeune et libre, donc non marié, le bachelor? Ou alors, on ne prête qu'aux riches, le mot baccalauréat est-il hérité des cérémonies des jésuites qui saignaient les fronts de leurs élèves méritants de baies de laurier, les baccalauréats ou baccalauri en latin, chacun y reconnaîtra les siens. Aujourd'hui, il est devenu impossible de savoir avec précision ce qu'est le baccalauréat. Depuis Napoléon, une longue tradition en a fait le premier des grades universitaires réservé à une élite restreinte. Qu'il me soit permis de citer à cet égard un souvenir personnel. Jeune assistant à l'université de Besançon, j'ai été envoyé un jour présider un jury de baccalauréat dans un lycée de Pontarlier, dans le Houdou. Le baccalauréat étant le premier des grades universitaires, le jury devait être présidé par un universitaire. C'était en même temps une sorte de bizutage pour le nouvel assistant. À cela près que la consigne du rectorat était d'être surtout très discret et de laisser faire le proviseur du lycée. Alors, grade universitaire débouchant à ce titre sur une entrée libre à l'université, ou diplôme de fin d'études secondaires ouvrant, entre autres, la porte de la vie active, la question est d'autant plus cruciale que cet examen, qui est aussi un rite initiatique traumatisant pour tous les adolescents qui le subissent, n'est plus la distinction d'une élite, mais, comme l'avait souhaité Laurent Fabius, le moment de l'avènement d'une classe d'âge dans la vie adulte. Et puis, bien sûr, il conviendrait d'évoquer les thèses de Bourdieu ou Boudon, sociologues ennemis jurés sur le papier, mais qui étaient parvenus par des voies différentes à conclure que le baccalauréat était aussi le symbole des héritiers ou de l'inégalité des chances. Donc, une nouvelle réforme du baccalauréat est en cours. Elle s'inscrit à la fois dans la durée et dans la volonté de changer un système éducatif à bout de souffle qui ne cesse de renforcer les inégalités sociales auxquelles il est censé remédier. Sans évoquer, bien sûr, l'éternel débat sur le savoir ou sur l'apprendre à savoir. Pour nous présenter l'état de la réflexion sur la question et nous assurer que le baccalauréat aura bien lieu, nous avons le privilège d'accueillir ce soir pour ce mardi d'éthique publique, par ordre alphabétique, Pierre Mathiot, professeur des universités en sciences politiques, ancien directeur de Sciences Po Lille et conseiller spécial du directeur actuel de cet institut. Pierre Mathiot a été chargé par le ministre Jean-Michel Blanquer d'un rapport sur la réforme du baccalauréat. Et Claude Tellot, un habitué de ces mardis, sociologue, spécialiste des questions d'éducation, ancien président du Haut Conseil de l'évaluation de l'école et président de la commission du débat national sur l'avenir de l'école en 2003-2004. Et c'est Pierre Mathiot qui prend le premier la parole.
Merci excusez-moi, parce qu'en plus c'est enregistré. Merci de m'avoir invité. Je vois que je m'adresse à une assemblée qui a passé le bac pour la plupart il y a un certain nombre d'années, mais qui est quand même néanmoins intéressé peut-être à le repasser dans sa nouvelle formule. Alors, comme ça a été prévu au départ, en effet, je vais parler pas très très longtemps, donc vous m'excuserez de pas entrer dans les détails de tout ce qui a été débattu depuis le mois de novembre dernier. Et puis, je pense qu'après, on aura l'occasion, au gré des échanges et des questions, de peut-être pour moi, de revenir sur des choses plus précises. Alors, de quoi s'est-il agi pour moi dans le cadre de la mission que j'ai conduite? En fait, très simplement, comme vous le savez sans doute, dans le programme du candidat Emmanuel Macron, devenu président de la République, il y avait deux lignes, je crois, sur toutes ces questions qui étaient simplement de prévoir, de promettre, d'envisager que le bac soit réorganisé avec la mise en place d'un contrôle continu et la réduction à 4 épreuves du nombre d'épreuves finales. En gros, c'était ça le point de départ. Sur cette base-là, donc, le ministre m'a proposé de m'occuper de ce dossier, donc du bac, en considérant également que, bien évidemment, la réforme du bac pouvait ou devait avoir des conséquences sur l'organisation du lycée. Mais vous voyez, en termes d'organisation, sur le plan un petit peu de la dialectique de la réforme, c'était de partir de la réforme du baccalauréat pour, en quelque sorte, remonter vers une réforme également du lycée. La mission se cantonnait, et je pense qu'on aura à en débattre, la mission se limitait, si vous voulez, au bac général et au bac technologique. Comme vous le savez sans doute, ou peut-être, il y a eu une mission à côté sur le bac professionnel, ce qui évidemment nous interroge dans la mesure où, comme l'a dit Jean-Luc Poutier au début, l'ensemble des baccalauréats, des trois baccalauréats, continue à être considéré aujourd'hui sur le plan juridique, peut-être pas sur le plan pratique, mais sur le plan juridique, comme étant les titres qui donnent accès à l'enseignement supérieur. Il n'y a pas eu de réforme de cela, hein, le bac pro, le bac techno et le bac général. Dès lors que vous l'avez obtenu, vous pouvez accéder à l'enseignement supérieur sur le papier sans réserve, sans nuance. Et c'est vrai que là, on a distingué les deux. Pour des raisons pratiques, je vous avoue que moi, je connaissais pas énormément le bac pro, donc ça m'a pas complètement gêné, parce qu'il y a une question quand même de légitimité par rapport au travail qu'on peut mener. Donc, c'était ça le départ. Et effectivement, pour moi, le seul élément de la feuille de route, et c'est aussi pour ça, pour tout vous dire, que j'ai accepté cette mission, c'était, j'avais comme seule contrainte de réfléchir à mettre en place du contrôle continu et réfléchir à 4 épreuves finales, même si finalement il y en aura 5, c'était les seuls, le seul cadrage que j'avais. Et pour tout vous dire, je suis universitaire, je suis quelqu'un d'assez, disons, libre dans la vie, et donc j'avais accepté la mission, et je l'avais dit clairement au ministre en disant que pour moi c'était la seule contrainte que j'avais. Pour le reste, je me considérais comme très libre des propositions que j'allais faire, avec, je le dis tout de suite aussi, bien sûr, l'idée qu'une fois que le rapport aurait été remis, ce qui a été le cas le 24 janvier dernier, le ministre ensuite prendrait ses décisions en totale liberté. Bien évidemment, hein, ça c'est la tradition, même si au final, on va dire que s'agissant du bac, il a retenu l'immense majorité de mes propositions. Sur le lycée, un peu moins, on pourra y revenir, parce que j'étais peut-être un peu trop disruptif, si vous voulez, par rapport à son organisation actuelle. Ah, donc, dans ce cadre-là, et pour aller très vite, là aussi, j'ai fait beaucoup d'auditions. On a rencontré plus d'une centaine de, on a fait plus d'une centaine d'auditions. On a fait 4 déplacements en région, parce que même si moi je suis un régional, je n'habite pas Paris, c'était très important pour moi de continuer évidemment à travailler à Lille. Je suis allé dans plusieurs académies pour voir un petit peu comment ça se passait. J'ai travaillé avec des inspecteurs généraux, mais j'y insiste, j'ai rédigé le rapport seul à la fin, parce que vous savez, dans le mode de fonctionnement de l'État en France, parfois les administrations ont tendance à un moment ou à un autre, reprendre le contrôle de la rédaction des textes. Donc moi, j'ai rédigé ça seul. Il faut dire que j'avais quelques expériences. Il se trouve que j'enseigne, moi, la décision publique et les politiques publiques dans la vraie vie. Donc je connais un petit peu le fonctionnement de la machine bureaucratique. Donc j'ai rédigé ce rapport seul, que j'ai remis au ministre. Puis, comme vous le savez sans doute, 3 semaines après, il a rendu ses conclusions, sachant que dans l'intervalle, il avait lui-même mené des discussions avec les organisations syndicales, d'ailleurs discussions auxquelles j'ai été associé. D'ailleurs, c'était tout à fait passionnant pour moi, en tant qu'universitaire, d'être dans la machine de la décision, dans la boîte noire, comme on dit, et de regarder un petit peu comment les choses se passaient. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a réformé le bac? On l'a pas réformé uniquement parce que la dernière fois c'était en 1962, mais je suis sûr que Claude Tello va rebondir là-dessus, mais sachant qu'en 62 j'étais loin d'être né, hein, pour tout vous dire. Mais pourquoi on l'a réformé? Au fond, le point de départ pour moi, qui m'a motivé, si vous voulez, dans cette opération, c'était de considérer que le bac posait, on va dire, 3 problèmes, mais de nature très différente, sachant que pour moi il y a un des 3 qui est essentiel. 2 qui pour moi sont moins essentiels, mais néanmoins quand même. Un, ce qu'on appelle dans le jargon le problème de la valeur certificative du bac. Ça veut dire, en français, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, le fait que 52% des élèves obtiennent le bac général avec mention, que chaque année 200 élèves obtiennent le bac avec plus de 20 sur 20 de moyenne, ce qui est quand même une performance au sens d'Andy Warhol, qu'on ait une proportion croissante d'élèves qui obtiennent le bac avec mention, pour des raisons d'ailleurs sur lesquelles je passe ici, liées, vous savez, au développement des options, des points au-dessus de 10, des coefficients sur les options, etc. etc. Donc il y a une question, si vous voulez, qui se posait de quel sens cela a-t-il d'obtenir le bac avec 15 de moyenne ou avec 10 de moyenne? Je pense qu'il y a évidemment... C'est pas les mêmes élèves, 15 et 10 c'est pas la même chose, mais il y avait cette dimension-là, mais qui n'est pas essentielle, hein, j'y insiste. La deuxième dimension, c'est la lourdeur phénoménale de ce machin bureaucratique. Hein, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la démographisation de l'éducation nationale, du fait qu'on est arrivé à aujourd'hui, bon, en gros 80% d'élèves qui obtiennent le bac, enfin d'une génération qui obtient le bac, pas qu'il le passe, qu'il l'obtient, il y a encore quand même 10%, 12% d'échecs, c'est devenu quand même un moloch bureaucratique, hein, 4 millions de copies, 3000 sujets, hein, avec les sujets de secours, 3000 sujets par an, 4400 centres d'examen, 170 000 correcteurs, examinateurs, enfin bon, quelque chose qui est devenu énorme à gérer, avec des risques majorés d'année en année de bugs, liés aux fuites, liés au développement des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, d'année en année, l'administration recourt de plus en plus aux sujets de secours, parce qu'il y a beaucoup de fuites, vous savez, la veille sur Facebook, un élève qui dit « j'ai les sujets ». Bon, voilà, donc le système est devenu très fragile, et je dois vous dire que c'est vraiment une performance que chaque année, le système ne plante pas. Quand vous disiez tout à l'heure, le baccalauréat aura bien lieu, oui, le bac a lieu, mais... il est de moins en moins impossible qu'il y ait un énorme incident, comme il y a presque chaque année sur le CAPES, la grecque, vous savez, où il y a des choses qui se passent. Bon, alors, le système fonctionne encore très bien, mais il est extrêmement lourd, et dans cette lourdeur, vous le savez sans doute aussi, il y a la lourdeur liée au mois de juin, au fait que, d'ailleurs, ça y est, le lycée est en train de fermer, là, hein, en général, qui quand même coûte de l'argent, aussi un petit peu, mais bon, certains syndicats nous ont reproché de vouloir faire des économies sur le bac. Le bac coûte entre 80 et 100 millions d'euros, pour son organisation. Bon, 80 ou 100 millions d'euros, c'est pas grand-chose, hein, rapporté au budget de l'éducation nationale. En revanche, effectivement, le fait que le mois de juin ne soit pas occupé, c'est 1 milliard d'euros. Attention, c'est pas des économies, c'est 1 milliard d'euros que l'État dépense pour faire fonctionner une institution qui ne fonctionne pas, en fait, puisque les professeurs sont payés, enfin, qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent pour autre chose, qui est le bac. Donc, il y avait cette dimension de la lourdeur. Mais surtout, le troisième point qui, pour moi, a motivé d'abord mon acceptation de cette mission et puis le travail que j'ai mené, c'est, me semble-t-il, le lien insuffisant, voire inexistant, entre le bac en tant que tel et l'accès à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que aujourd'hui, le bac ne compte pas, c'est zéro, il ne compte que, si vous voulez, comme condition finale pour accéder à l'enseignement supérieur. Bon, vous savez qu'il y a en ce moment le débat autour de Parcoursup. L'année dernière, à la même époque, c'était le débat autour d'APB. Hein. Il vous a pas échappé que les élèves n'ont pas encore passé le bac, sinon le bac de français ou quelques petites épreuves, notamment les langues un petit peu, mais bon, globalement, ils n'ont pas passé le bac. Et la plupart d'entre eux, le jour où, le 18 juin, lorsque le bac commencera, pratiquement tous auront une place dans l'enseignement supérieur à la condition d'avoir le bac. Donc vous voyez, le bac, c'est simplement le sésame final, mais aujourd'hui, le bac compte pour zéro dans l'accès à l'enseignement supérieur, alors même que, comme ça a été rapporté tout à l'heure, c'est le titre qui donne accès à l'enseignement supérieur. Donc il y a un truc un peu bizarre, si vous me passez l'expression, là. Donc il y avait dans la réflexion de se dire, il faut qu'on lit plus le bac à l'enseignement supérieur, mais attention qu'on lit plus le lycée à l'enseignement supérieur. Parce qu'évidemment, bac, mais également le lycée. Et moi, je pense, avec l'expérience qui est la mienne dans l'enseignement supérieur, je pense qu'une partie, disons, de ce qu'on va appeler l'échec pour aller vite, c'est plus compliqué que ça, mais une partie de l'échec, oui, des jeunes bacheliers dans l'enseignement supérieur, notamment première année post-bac, est liée, me semble-t-il, à une insuffisance de lien entre le lycée et l'enseignement supérieur. Mauvaise information, mais on en débattra. Mauvaise information, orientation parfois réalisée dans des conditions d'asymétrie d'information, élèves peu préparés, entre un lycée en France qui continue à être dans une tradition soit jésuite, soit de la caserne, très, comment dire, ou avec beaucoup de contrôle. Hein. Les parents d'élèves, on reçoit un SMS quand l'élève a 5 minutes de retard, et souvent les élèves arrivent dans l'enseignement supérieur, dans des lieux qui sont des lieux extrêmement libres, ce qui est très positif, mais ils n'y sont pas vraiment préparés. Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là, qui en plus, comme vous le savez sans doute, questions d'autocensure, de mésinformation et de mauvaise préparation, touchent d'abord, en premier lieu, les élèves des milieux les plus modestes. Donc c'est la double peine, c'est que déjà ils ont des difficultés à accéder aux filières les plus prestigieuses de notre système scolaire, et en plus souvent ils échouent plus parce que ils sont moins préparés, et souvent aussi ils s'orientent mal parce qu'ils sont pas assez informés. Donc il y avait vraiment cette problématique de travailler à ce continuum de formation, de considérer que le bac n'est pas la fin de l'histoire. Je pense que dans notre système, le bac est pensé et encore vécu par beaucoup d'enseignants du lycée comme la fin de l'histoire. C'est-à-dire au fond, ce qui se passe après importe peu. Or, vous le savez, les générations qui aujourd'hui ont le bac, on peut faire l'hypothèse que, en tout cas ceux qui ont le bac général, auront un master. Donc, feront encore 5 ans d'études, si tout va bien pour eux, plus probablement 6 ou 7, après le baccalauréat. C'est-à-dire, en fait, beaucoup d'années... c'est l'équivalent presque du lycée et du collège, hein, encore après. Donc moi, il me semble important de lier l'un avec l'autre. Et bien sûr, de lier cela avec Parcoursup, ce qui n'a pas été fait cette année, mais bien sûr, en 2021, quand le nouveau bac s'installera, j'espère qu'on aura tiré certaines leçons de ce qui se passe actuellement pour Parcoursup et qu'on arrivera à mieux, disons, articuler les deux. Il me reste 4 minutes, parce que j'ai noté pour le quart d'heure. Hein, par rapport à ça, qu'est-ce qui a été plutôt retenu par le ministre de ce que j'avais proposé? Ça ira plus vite. Effectivement, bon, c'était la lettre de mission, contrôle continu et contrôle final. Contrôle final, 5 contrôles finaux. Le français en première qui ne bouge pas, mais qui compte pour 1. Donc avec une épreuve, mais il y en aura 2, mais qui compte pour 1. C'est un peu de la dialectique, mais pour qu'on s'éloigne pas trop des 4 de la consigne du président de la République. Ensuite, en terminale, 4 épreuves, 2 épreuves de spécialité que les élèves passeront au retour des vacances de Pâques et dont l'objectif, c'est que les résultats puissent entrer en ligne de compte dans Parcoursup. On y reviendra peut-être, ça suppose de modifier des petites choses dans Parcoursup. Mais bon, au retour des vacances de Pâques, et 2 épreuves finales en fin de mois de juin, une épreuve de philosophie, le génie français, la philosophie, la dissertation de philosophie, et puis, bon, évidemment, c'est moi qui en suis à l'origine, donc le grand oral, je ne sais pas si c'est l'intitulé définitif qu'on retiendra, parce que grand oral, ça fait un peu Sciences Po, bon, on se refait pas, hein, n'est-ce pas, mais voilà, donc, le grand oral sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est, si vous le voulez, dans le débat, mais... Ces cinq épreuves terminales, c'est 60% du bac. 60%. 40%, c'est le contrôle continu. 30%, alors on pourra y revenir parce que l'administration ou la bureaucratie est en train de revenir et de reprendre le contrôle des choses, et ça m'inquiète un peu, parce que ça va être du contrôle continu un peu lourd et qui pose un certain nombre de problèmes. Mais comment garantir le caractère national du diplôme, y compris du contrôle continu, sans prévoir des épreuves nationales, alors même que ça se passe dans les lycées? Bon, je passe les détails, mais enfin 30% des épreuves ponctuelles de contrôle continu pendant la classe de première et pendant la classe de terminale, et 10% les bulletins scolaires, la prise en compte des bulletins scolaires. 10%, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est assez révolutionnaire, parce que par définition, les bulletins scolaires, on a le nom de l'élève, on a le lycée de l'élève. Ce qui veut dire que ça va un petit peu à l'encontre du principe, du sacro-saint principe, de l'anonymat strict des épreuves du bac. Ça, c'est le bac et le lycée. En gros, on a essayé d'organiser les choses. Alors, ce qui a été retenu du ministre, donc qui est un peu moins réformateur ou... que ce que je proposais, au fond, c'est d'articuler la première et la terminale autour de 3 modules ou 3 unités différentes, si je prends un petit peu les termes de l'enseignement supérieur. Une unité, générale, l'idée que tous les lycéens doivent avoir suivi, jusqu'à la terminale incluse, les mêmes enseignements, parce que c'est aussi ce qui fait société. Il faut que tous les bacheliers aient eu la même... alors si je faisais un petit peu le même socle, hein, si on reprend les termes du collège, mais un tronc commun, et moi je suis très favorable à l'idée de dire le socle. Hein, voilà, donc à peu près 18 heures par semaine, on pourra y revenir si vous voulez, les débats qui ont eu lieu avec les profs d'histoire géo, les scientifiques qui disent qu'il n'y a pas assez d'heures, etc., etc. Ensuite, une deuxième unité dite de spécialité, donc il n'y a plus de série, hein, S, L et ES ont disparu. disparaissent. Donc c'est trois anciens en tant qu'ancien bachelier littéraire, c'est quand même une grande victoire. Mais c'est donc trois matières de spécialité que les élèves choisissent en première, qui font chacune 4 heures, et ils en gardent deux en terminale qui font chacune 6 heures. Plus bien sûr, je passe ici les options qui restent. Mais on invente de nouvelles options, notamment maths expert ou maths complémentaire, je pourrais y revenir. Et dans les nouveaux enseignements de spécialité, il y a vraiment des enseignements nouveaux, puisque il y en a au moins 3 qui sont nouveaux. Là aussi, on pourra y revenir si vous voulez, autour du numérique, parce que aujourd'hui, il n'y avait pas d'enseignement fondamental, donc informatique et numérique. Il y a un enseignement autour de humanité, philosophie et lettres classiques. Hein, donc un enseignement unique. Hein. Alors là, la question, ça sera plusieurs enseignants vont être amenés à enseigner cela. Il y a une problématique de programme. Et un troisième enseignement, là, c'est, j'en assume complètement la paternité, même si histoire, géopolitique et sciences politiques. Donc c'est un seul enseignement. Hein. Donc vous comprenez bien qu'il y aura un programme, mais que par définition, il y aura des enseignants de diverses disciplines qui seront amenés à l'enseigner, ce qui va poser évidemment des questions d'organisation dans les établissements. Voilà. Donc et troisième, et je terminerai par là, unité ou troisième module auquel moi je suis extrêmement attentif parce que c'est une question pour moi de, disons, par rapport aux problématiques d'égalité des chances, c'est une unité d'orientation et d'accompagnement des élèves, alors qui existait un peu sous la forme de ce qu'on appelle l'AP pour ceux qui sont un peu coutumés du système. Mais vous le savez, l'AP était très, ce qu'on appelle l'aide personnalisée, était souvent appropriée par les profs pour rattraper les programmes, comme d'habitude. Donc là, vraiment, un vrai accompagnement des élèves à partir de un peu de la seconde, mais première et terminale, vraiment de les préparer à l'enseignement supérieur. Donc de leur donner le maximum d'informations sur tout ce qu'ils peuvent faire, notamment par rapport à Parcoursup, mais aussi les accompagner avec du mentorat d'élèves du SUP, avec aussi, moi j'y crois beaucoup, des profs de l'enseignement supérieur qui, soit en présentiel, soit par les visioconférences, viennent dans les lycées, par exemple, pour faire un vrai faux cours de droit ou de médecine, parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup d'élèves qui s'inscrivent dans ces filières-là en ne sachant pas vraiment ce qu'elles sont en réalité, puisque, et je terminerai par là, c'est parmi les ironies de notre système de formation, les 4 licences, les 4 premières années de licence qui sont les plus demandées par les élèves sur Parcoursup aujourd'hui sont la PACES, donc santé, psycho, STAPS et droit. Et il ne vous aura pas échappé que ce sont 4 disciplines qui globalement ne sont pas enseignées au lycée. Un tout petit peu SVT, un tout petit peu EPS, mais ne sont pas enseignées. Donc moi je crois que c'est important que les élèves puissent peut-être avoir une première expérience concrète de ce que ça peut être pour conforter leur choix ou au contraire se rendre compte que c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Voilà, je m'arrête pour le moment. Merci.
Merci beaucoup Pierre Mathieu pour cette présentation à la fois de votre travail, de la méthode que vous avez à laquelle vous avez eu recours et des propositions qui en ont résulté. Alors je rappelle que ce mardi d'éthique publique est consacré à la question du baccalauréat, que nous écoutions Pierre Mathieu qui a été chargé par le ministre Blanquer d'un rapport sur cette réforme du baccalauréat et c'est maintenant à Claude Tellot de prendre la parole pour nous faire part de ses réactions à toute cette réflexion qui a été menée depuis quelques mois.
Merci beaucoup. Évidemment, en un quart d'heure, en prélude à notre discussion, il faut dire des choses qui soient pertinentes en deux sens, pertinentes sur le fond du baccalauréat et pertinentes pour nourrir une discussion qui elle-même soit productive. Et ce qui est difficile avec le baccalauréat, comme avec toute la politique éducative, je dis ça en introduction parce que je n'aurai pas le temps de le dire en conclusion, donc je l'aurai dit une bonne fois. Ce qui est difficile, c'est que le diable est dans les détails, c'est-à-dire que nous allons arriver à nous entendre sur les grandes lignes. Mais les grandes lignes, ce n'est rien. S'agissant de la politique éducative, ce qui importe, c'est les détails. Ce qui importe, c'est les coefficients. Ce qui importe, c'est la pondération. Ce qui importe, c'est le contenu. C'est-à-dire tout ce à peu près dont nous n'allons pas pouvoir parler ce soir. Mais sur les grandes dimensions, nous allons nous entendre. Et en vérité, j'espère que l'assistance comprendra que c'est à la fois un cadre nécessaire, les grandes dimensions, et en même temps, tout dépend, mais tout dépend, j'insiste, sur la façon dont on remplit le cadre. Je voudrais dire 5 points, et qui feront cette intervention liminaire que j'ai préparée à votre intention, en complément de celle de M. Mathieu, qui a fait un bon rapport. Les 5 points que je vais dire portent sur, en somme, le projet de réforme du baccalauréat que le ministre a présenté à partir du rapport Mathieu. Je ne vais pas parler directement du rapport Mathieu parce que des rapports, il le sait comme moi et j'en ai fait comme lui. Ce n'est pas ça qui importe dans notre République. Ce qui importe dans notre République, c'est l'action publique. Et l'action publique, elle est en effet indépendante des rapports, même si elle est enrichie par un rapport comme celui de M. Mathieu. Et ce qu'il faut discuter, c'est donc les projets du ministre tels qu'il les a tirés du rapport, qu'il en prenne ou qu'il n'en prenne pas. J'ai donc cinq grandes têtes de chapitre et je vais me limiter aux têtes de chapitre pour tenir dans le quart d'heure. Chaque tête de chapitre, mesdames et messieurs, peut être enrichie par la discussion avec M. Mathieu et votre discussion à vous. C'est des têtes de chapitre qui ne sont pas creuses, mais que je vais rendre creuses pour faire vite. La première chose, c'est que je pense que ça a été une erreur de mettre la réforme du baccalauréat comme une priorité de la politique éducative. C'était dans le programme du candidat à la présidence de la République, et donc il faut appliquer cela, mais je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que, à vrai dire, le baccalauréat ne marchait pas si mal, et ne marche pas, toujours pas si mal. C'est un prodige, en effet, comme M. Mathieu l'a dit, d'organisation. Ce n'est pas d'un coût très élevé, contrairement à ce qu'on entend dire ici ou là, ça n'est pas vrai, c'est 80 euros par élève. Eh bien, 80 euros par élève pour que notre pays réussisse à faire ce prodige de chaque printemps, ce n'est pas trop cher payé. Mais c'est une très grande difficulté d'organisation, ça c'est exact. Mais ça n'était pas, et ça n'est toujours pas, à mes yeux, une priorité de la politique éducative. Il y a dans notre système éducatif, et je ne détaille pas ce point, mais beaucoup d'autres endroits qu'il faut réformer de façon prioritaire. Et je ne voudrais pas que la réforme du baccalauréat, telle qu'on la prévoit, empêche les autres réformes nécessaires de se produire et que, par exemple, elles aboutissent à un échec comme en 2005. Ceci est un point capital. Il ne faudrait pas que la réforme du baccalauréat qu'on a décidé de faire empêche de réformer ce qui doit principalement et prioritairement être réformé dans notre école. Alors, deuxième point. Il me semble qu'il faut, et M. Mathieu le dit très bien, et le ministre le dit très bien aussi, je pense, il faut, pour cette réforme du baccalauréat, penser à des principes généraux que cet examen dans notre pays, qui a 200 ans, en effet, ce baccalauréat, doit respecter. Alors, le premier principe, à mon avis, c'est bien celui que M. Mathieu a mis en œuvre. C'est-à-dire, le baccalauréat a de facto aujourd'hui, de facto, la double caractéristique, un, examen de fin d'enseignement secondaire, et deux, droit d'entrée dans l'enseignement supérieur, droit au sens droit. Mais pas du tout droit au sens processus qui permet d'orienter. Et ça, malheureusement, M. Mathieu, je le crains, et c'est un point qui pourrait faire l'objet d'une discussion, je crains que ça soit dans la nature des choses. C'est-à-dire le processus d'entrée dans l'enseignement supérieur, depuis toujours dans l'enseignement sélectif, c'est un processus qui a précédé le baccalauréat. Dans les classes préparatoires, dans les IUT, partout, c'est avant le baccalauréat que ça se décide et sur d'autres choses que le baccalauréat. Et c'est normal qu'il en soit ainsi. Et Parcoursup, en ce moment, fait la même chose et montre exactement le même exemple. C'est normal puisque le processus fatalement prend place pour des questions de temps avant que le baccalauréat ait lieu. Et par conséquent, qu'on veuille mieux orienter le baccalauréat pour mieux comprendre ce qu'il atteste de connaissances et de compétences pour être utile à l'enseignement supérieur, on a raison. Mais il faut bien voir que c'est presque une vue de l'esprit que d'être capable d'utiliser le baccalauréat, fut-il réformé, à la sélection et à l'orientation elle-même dans l'enseignement supérieur, parce que la sélection et l'orientation elle-même dans l'enseignement supérieur auront lieu avant. Et c'est d'ailleurs à cause de cet avant que je suis principalement en faveur d'introduire du contrôle continu dans le baccalauréat New Look, parce que en mettant du contrôle continu dans le baccalauréat New Look, eh bien, vous cessez de lui conférer une valeur purement ponctuelle et par conséquent, vous donnez des éléments qui permettront à cette partie du baccalauréat qui ne sera pas ponctuelle mais qui aura été continue sur la première et la terminale, vous permettrez de l'utiliser dans le processus lui-même. Mais imaginez que les épreuves terminales du baccalauréat, même si elles sont faites à la rentrée des vacances de printemps, Monsieur Mathieu, imaginez qu'elles puissent vraiment être utiles pour le processus d'orientation et de sélection, je crois que c'est une erreur. Et du coup, il faut faire attention au contrôle continu pour ce motif, et non pas pour le motif de coût et d'organisation, pour ce motif. Il faut qu'on ait à notre disposition, pour nourrir le processus d'orientation et de sélection dans l'enseignement supérieur, des éléments du baccalauréat qui précèdent les épreuves ponctuelles terminales. Ça, c'est le premier principe. Il doit conserver cette double fonction, le baccalauréat New Look. Un, fin d'examen de l'enseignement secondaire. Deux, droit d'entrée dans le supérieur. Et se débrouiller pour que ce droit d'entrée soit un peu plus qu'un droit. Alors, deuxième point qui est très important, très important. On dit toujours il faut garder au baccalauréat son caractère national. Je suis d'accord. Mais je dirais encore plus qu'il faut lui garder son caractère externe par rapport au lycée dans lequel les lycéens sont. Examen de fin d'études secondaires, oui, mais pas examen qu'on organise dans le lycée et avec les professeurs qu'on a dans le lycée. Il faut que le baccalauréat, encore plus d'être national, soit externe. C'est la question d'Alfred Sauvy. C'est-à-dire, Alfred Sauvy, n'est-ce pas, l'économiste que vous connaissez, quand il disait ça, cette chose extraordinaire que je livre à votre méditation, « Lorsque je vois un ver de terre, je ne sais jamais si c'est la tête qui tire ou la queue qui pousse. » Eh bien, en matière de lycée et de baccalauréat, c'est la tête qui tire. C'est un examen externe au lycée qui tire le lycée vers la qualité et qui, à travers tirer le lycée vers la qualité, tire aussi le collège. Le jour où vous faites du baccalauréat un examen interne au lycée, corrigé par les professeurs du lycée, où vous mettez un contrôle continu des professeurs, de l'élève lui-même, etc., ce jour-là où vous faites ça, il ne tire plus autant. Ça, c'est un point capital. Encore plus que des nationales, le baccalauréat doit être externe. Enfin, troisième point, troisième grand axe, je pense personnellement, monsieur Mathieu, est-ce que nous allons nous entendre sur cette question, que tant le baccalauréat que le cycle terminal du lycée, c'est-à-dire première et terminale, nous ne parlons, n'est-ce pas, jusqu'à maintenant, mesdames et messieurs, que du baccalauréat général. Vous avez compris ça, monsieur Mathieu l'a dit, je le répète, ça veut dire que nous parlons que de la moitié des bacheliers français, premier point, et nous parlons que de 3 baccalauréats et 3 seulement sur les 100 qui existent. Mais c'est les 3 baccalauréats qui comptent aussi aux yeux de l'opinion, c'est le baccalauréat littéraire, le baccalauréat économique et social, le baccalauréat scientifique. Les 97 autres baccalauréats qui existent et que peut-être une partie de l'Assemblée ne connaît pas, on est au moins de l'importance, mais nous n'en parlons pas. Eh bien, ces 3-là, littéraire, économique et social et scientifique, et le cycle terminal du lycée qui leur est associé, je crois qu'il faut, vu la jeunesse que nous avons, de 17, de 18, de 19 ans dans les lycées, je crois qu'il faut les typer et les colorer au maximum. Il ne faut pas qu'à la fin du lycée, et il ne faut pas que le baccalauréat lui-même soit un moment de 2 ans et un examen de fin de ces 2 ans qui soit tous azimuts, où on demande des tas de choses sous forme de 12 épreuves, comme aujourd'hui ou à peu près, à tous les élèves. On demande beaucoup trop de choses à tout le monde, et du coup, comme on demande beaucoup trop de choses à tout le monde, c'est du saupoudrage, on ne peut pas savoir 12 choses, ça n'est pas vrai. Et 2, en plus, ça ne vous intéresse pas. Vous avez 17, 18 ans, on vous impose au lycée d'apprendre des tas de trucs qui ne vous intéressent pas. Et donc, après le collège et la seconde, qui doivent être généralistes, qui doivent être rassemblés toute une génération, qui doivent donner des compétences globales de telle sorte que l'école soit réellement un vivier, il faut que le cycle terminal et le baccalauréat soient le plus, si je puis dire, coloré possible. Coloré possible. Alors, troisième point, l'équilibre que M. Mathieu propose et que le ministre retient entre contrôle continu et épreuve terminale. Je suis d'accord que le baccalauréat New Look doit avoir ces 2 éléments-là. Mais il faut faire attention. Depuis plus de 30 ans, nous avons mis dans le brevet des collèges, en fin de collège, nous avons mis un contrôle continu. Depuis plus de 30 ans, l'inspection générale a pondu des circulaires de telle sorte que la partie contrôle continu du brevet des collèges soit le plus encadrée et homogénéisée possible d'un collège à l'autre, c'est-à-dire que le brevet des collèges soit un examen national et non pas un examen collège par collège. Et depuis plus de 30 ans, ces circulaires successifs de l'inspection générale n'ont eu aucun effet. Autrement dit, il est extrêmement difficile, je pèse mes mots, de faire un contrôle continu qui soit externe et national. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec l'idée que le livret scolaire ne pèse que 10%, parce que le livret scolaire, qui peut peser, qui doit peser, qu'il est intéressant de faire peser, il est très important, il ne faut pas le faire peser trop, parce que lui, il est interne et il n'est pas national. Et du coup, le ministre propose, et je crois qu'il a raison, à côté des 10% du livret scolaire, et à côté des 60% des épreuves terminales sur lesquelles je vais venir dans un moment, il y a un trou de 30% de guillemets, quelque chose de nouveau qui apparaît dans l'univers, contrôle continu externe et national. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle continu externe et national ? Le ministre propose de faire des épreuves régulières par tous les lycéens en première et en terminale sur sujets nationaux et non pas des sujets proposés par les professeurs et corrigés par d'autres professeurs que les professeurs de lycée. Corrigés de façon homogène d'un lycée à l'autre par ces autres professeurs que le professeur du lycée. C'est possible. C'est nouveau. C'est dur à organiser. Ça requiert de la part des professeurs d'être assez convenablement formés. Et ce n'est pas simplement une question de coût, c'est une question de formation. Il faut que les professeurs, de toutes ces épreuves, qui vont compter pour 30% de l'examen, et qui vont durer tous les X semaines ou mois de première et de terminale, il faut que tous les professeurs corrigent pareil. Vous me suivez? Et donc c'est possible, c'est compliqué, c'est pas sûr qu'on gagne en organisation et en coût. J'avance. Mais je suis d'accord sur le principe. Alors, Monsieur Mathieu a raison, c'est-à-dire il ne faut pas réformer le bac sans réformer le lycée. Peut-être qu'on met le charrue avant les bœufs en disant « je réforme le bac, donc je pense au lycée ». Moi, j'aurais plutôt dit « je réforme le lycée, donc je pense au bac qui couronne le lycée ». Mais enfin, qu'importe, c'est les deux choses à la fois. Moi, personnellement, Monsieur Mathieu, je suis opposé à l'idée de perdre les filières. Je pense qu'il faut garder les trois filières, littéraire, scientifique, économique et sociale. Mais même si on les perd, et dans le projet du ministre, il les garde plutôt qu'il ne vous suit, mais même si on les perdait, qu'est-ce qui se passe concrètement par improviseur pour l'organisation, n'est-ce pas, de l'enseignement? Il va regrouper avec... Si on donne la possibilité aux élèves de prendre les enseignements spécialités qu'il veut, il va regrouper des élèves ayant choisi les mêmes enseignements de mes spécialités. Autrement dit, il va refaire des classes de filières. Alors le ministre, ce qui est important, ce n'est pas la question filière ou unité, monsieur Mathieu, à mes yeux. Ce qui est important, c'est que ce qu'on propose à la jeunesse soit fortement coloré. C'est-à-dire qu'en première et en terminale, la jeunesse fasse à peu près, plus qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'aujourd'hui, à peu près ce qu'elle a envie de faire. Parce que si la jeunesse apprend, et on lui propose d'apprendre beaucoup plus qu'aujourd'hui ce qu'elle a envie d'apprendre, alors on pourra, d'une part, souhaiter plus vivement qu'elle réussisse. D'autre part, il est certain qu'elle réussira mieux. Troisièmement, ce que dit Monsieur Mathieu sur le baccalauréat qui est très juste, on saura mieux ce que le baccalauréat atteste d'un élève en filière scientifique, d'un élève en filière littéraire, dès lors que ce côté scientifique de la filière sera plus marqué et le côté littéraire de la filière soit plus marqué. Et par conséquent, dans le couple que le ministre propose de tronc commun et d'enseignement spécialité en première et en terminale, tronc commun, enseignement spécialité, en première et en terminale, il faut donner toute la force aux enseignements spécialités et très peu aux enseignements de tronc commun. Or, le projet actuel du ministre me semble un mauvais projet de ce point de vue, où plus de la majorité des heures sont consacrées au tronc commun. Alors, ceci est évidemment une difficulté. Je pense qu'il faut aller davantage vers des filières colorées, des filières typées, des filières spécialisées qui permettent de faire ça. Alors, maintenant, regardons le baccalauréat lui-même. Alors, évidemment, il y a une chose très intéressante. Monsieur Mathieu a proposé, et le ministre a retenu, que le baccalauréat, en somme, se fonde sur 5 épreuves comptant pour 60% des coefficients. Je redis mon affaire de tout à l'heure, 10% pour le livret scolaire, 30% pour le contrôle continu externe et national Nouloukt, et il reste 60% pour les 5 épreuves. Français, en fin de première, très bien, ça ne bouge pas. Philo, en fin de terminale, ça ne bouge pas. Deux enseignements de spécialité, c'est excellent. Et votre grand oral qui est excellent. Le grand oral est excellent de M. Mathieu, et je crois que le ministre a eu raison de le retenir. Compliqué à organiser, lourd, etc. Nouveau, là aussi, c'est New Look, mais c'est New Look à cette échelle, évidemment, puisque 800 000 enfants, bon. Mais c'est très intéressant parce que ça va permettre de tester, d'évaluer, de certifier, de valider des compétences un peu différentes que les autres matières. Et ça, c'est le point central. Il faut que le baccalauréat New Look soit fondé sur des épreuves dont on sache à peu près correctement ce qu'elles évaluent, ce qu'elles attestent. Et si possible, qu'une partie des épreuves atteste autre chose que ce qu'on atteste d'habitude. Par exemple, aujourd'hui, dans le baccalauréat, dans certaines des filières, vous avez quatre fois une dissertation à faire. 4 fois. C'est trop. Ayons des épreuves, pensons à avoir des épreuves attestant validant des profils différents. Et le grand oral de M. Mathiot que le ministre retient fait partie pour moi de cette excellente initiative. Ça va permettre de tester autre chose. Mais si vous voulez, la deuxième réflexion générale que je me fais, c'est la question des pondérations. Par exemple, M. Mathiot, ceci pour notre discussion à tous les deux. On veut réformer le bac, y compris en profondeur sur certains aspects grâce à vous. On veut que le bac permette d'évaluer plus correctement certaines des compétences. Compétences X, Y, Z. Par exemple, des compétences capitales pour réussir l'enseignement supérieur. Dans ces conditions, pourquoi est-ce qu'on continue à travers un jeu de coefficients, dont je ne connais pas d'ailleurs l'ampleur, c'est un point dont je vais parler dans un moment, mais pourquoi est-ce qu'on continue à penser qu'il pourrait y avoir des compensations entre épreuves? Prenons votre grand oral. Imaginons que les compétences que le grand oral permet d'évaluer soient des compétences capitales pour réussir l'enseignement supérieur. Pourquoi est-ce que vous acceptez que la note du grand oral soit compensée par une note d'une autre épreuve? Si c'est capital, ça n'a pas à être compensé. Et donc je trouve qu'on devrait s'interroger sur cette question. Est-ce qu'il y a des compétences capitales pour réussir l'enseignement supérieur sur lesquelles, par conséquent, précisément parce qu'elles sont ou seraient capitales, eh bien, il ne faut pas tolérer de compensation. Plus généralement, si vous n'acceptez pas ça, c'est-à-dire si vous dites continuons à compenser, ce qu'on a toujours fait, je ne vois pas pourquoi en changement. Alors à ce moment-là, c'est la question des coefficients, monsieur. Parce que si vous donnez trop de coefficients au français, à la philo, à ce moment-là, toute l'idée d'un baccalauréat spécialisé, coloré, où on comprend ce que les élèves savent faire, disparaît. Il faut faire très très attention aux pondérations. Il ne faut pas que les pondérations du tronc commun soient trop importantes au détriment des pondérations des spécialités. Je m'arrête là. Je pense qu'il y a un point, juste un mot encore, un point très important que vous avez dit dans votre rapport et qui me semble, à travers ce que j'en ai lu, non repris par le ministre et je le déplore, c'est que aujourd'hui la question du lycée, comme la question du collège, ce n'est pas simplement la question de transmettre quelque chose à la jeunesse. La question du lycée comme la question du collège, précisément parce que tout le monde est désormais au lycée et que 80% d'entre une génération est bachelière, la question n'est pas simplement de transmettre des connaissances et des compétences, la question est de les faire acquérir par les jeunes. Or, la transmission ne suffit pas à faire acquérir. Vous faites un bon cours, vous êtes particulièrement compétent pour transmettre vos connaissances et vos compétences. En vérité, il faut aider à acquérir. Et par conséquent, vous aviez dit dans votre rapport, et j'étais très favorable à ça, qu'en plus dans les enseignements disciplinaires, il y ait des moments d'accompagnement des élèves, des moments où on les aide à acquérir ce qu'on entend leur transmettre. Il faut que ceci figure, parce que c'est à ce compte-là que le lycée sera réussi, et c'est à ce compte-là qu'ensuite le baccalauréat attestera de compétences maîtrisées. Si il n'y a pas cette aide et cet accompagnement des élèves, en plus des heures disciplinaires de transmission, ou si dans les heures de transmission, on ne fait pas droit et de façon importante à l'aide à l'acquisition, alors à ce moment-là, les compétences ou les connaissances qu'attestera le baccalauréat seront vides de signification.
Merci à Claude Tello de cette intervention vigoureuse. Donc nous continuons notre soirée consacrée à la question du baccalauréat, donc je rappelle en présence de Pierre Mathiot et de Claude Tello. Nous avons un petit peu de temps devant nous et je pense que Pierre Mathiot aura quelques éléments à ajouter à l'intervention de Claude Tello. Ne serait-ce que sur la question de la couleur, parce que c'est un point d'insistance, si j'ai bien compris, la coloration du baccalauréat. Puis, ou d'autres points, enfin...
D'abord, je suis ressorti plutôt épargné de l'exposé de Claude Tello, donc ça me va très très bien, si vous voulez, moi, tant qu'il attaque le ministre et pas moi, je suis complètement favorable avec lui. Là où je suis complètement d'accord avec lui, vraiment, c'est une expression toute simple qui en plus, ici, trouvera tout son sens, c'est « le diable se niche dans les détails », c'est qu'il va de soi qu'entre ce qu'un ministre annonce comme étant une réforme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, là on parle du bac, mais n'importe quelle réforme, et ce qui va se passer ensuite comme opérations administratives diverses et variées qui vont finir par donner vie à une réforme, il se passe du temps, des réunions, et parfois on arrive à des résultats qui peuvent être un peu à l'écart ou différents des intentions. Donc je suis complètement d'accord avec vous, on pourra en reparler si vous le voulez, mais par exemple autour de la question du contrôle continu, la manière dont il va être organisé, va évidemment déterminer beaucoup de choses. Également, Claude Tello en a parlé, ce que les élèves vont pouvoir choisir comme spécialité en première et en terminale, je peux vous le dire, c'est actuellement en débat au ministère, hein, est-ce qu'on laisse les élèves totalement libres de choisir deux matières ou trois matières vraiment librement, ou est-ce qu'on les incite par exemple à faire maths et physique? Alors, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est très différent. Donc au fond, et là, attention, il y a aussi derrière, et je pense que vous en aurez conscience, des contraintes organisationnelles dans les établissements. D'ailleurs, pour ça que entre mon rapport et ce que le ministre a retenu, j'allais loin dans. Pour vous donner un exemple, et d'ailleurs, je pense que là, on serait d'accord. Vous avez lu mon rapport attentivement quand vous avez dit il faut que laisser les jeunes faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, pour vous,
plus qu'aujourd'hui, voilà, pas entièrement.
Voilà. Donc, par exemple,
je suis modérément laxiste. Mais...
Voilà. Non, mais moi, c'est pas que je sois laxiste, mais c'est-à-dire qu'en fait, je m'étais dit, écoutez, si on semestrialise le lycée, c'est une autre des propositions qui n'a pas été retenue par le ministre. Bon, je peux comprendre parce que là, pour le coup, les organisations syndicales étaient un petit peu, enfin pas toutes, mais un petit peu opposées. Mais en tout cas, c'était de dire si on semestrialise, mais en première et en terminale. Les enseignements de spécialité que moi j'appelais majeurs, les élèves peuvent en changer. Vous voyez, en gros, un élève en premier semestre de première, il fait maths et physique. Je suis d'accord avec vous. C'est qu'en fait, moi j'ai un peu, je l'ai maintenu dans mon texte, tout en disant que c'était très compliqué à mettre en place, mais aussi pas uniquement en termes d'organisation, mais aussi en termes d'acquisition de connaissances. Un élève fait des maths, il arrête de faire des maths, il fait des SES, puis là, il fait de l'histoire. Donc je pense que quelque part, mon idée au départ, elle était pas mauvaise, mais on l'a abandonnée. Et je crois qu'il faut aussi reconnaître que parfois on
a eu raison de l'abandonner.
Voilà, ouais, on rêve un peu. Bon, alors. Sur vous avez dit évidemment énormément de choses. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le ministre a annoncé quelque chose le 14 février dernier, et là maintenant l'administration est au travail.
Tout à fait.
Je ne suis pas au travail moi-même. Je suis rentré à Lille et j'ai continué mon activité d'enseignant chercheur à Lille et je ne m'occupe plus de cela. Mais effectivement l'administration travaille et vous le savez bien Claude Tello, il y a déjà plusieurs arrêtés qui ont été pris. Notamment concernant l'organisation du contrôle continu. Donc les choses sont en train de se mettre en place dans un sens qui quand même correspond à ce que vous disiez, même si c'est extrêmement compliqué à faire. Comment faire pour que le contrôle continu soit organisé de manière pas trop lourde? Parce que vous comprenez, si on gagne le mois de juin, ou globalement on le gagne, mais qu'on embolise le fonctionnement du lycée en cours de première, en cours de terminale, parce qu'au mois de janvier ou au mois d'avril, on va organiser des épreuves, c'est pas nécessairement génial, mais en même temps, je vois pas comment on peut y échapper. Mais en tout cas, l'une des idées qui a été retenue, c'est de dire, attention, c'est vers quoi on va. C'est des banques de sujets nationaux. D'accord? C'est-à-dire, en fait, les inspecteurs généraux d'histoire produisent beaucoup de sujets d'histoire, qui d'ailleurs sont publics, hein, sont rendus publics, et les profs, dans les établissements, choisissent les sujets qui font passer en contrôle continu en fonction de là où ils en sont arrivés dans le suivi du programme. Autrement, c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant de la correction, il y a deux options. Il y a une option d'anonymisation des copies ou, effectivement, mais c'est compliqué, que les copies soient corrigées dans le bahut d'à côté. Alors ça peut aller dans les zones urbaines, globalement. Hein, vous avez 4-5 lycées, dont le lycée privé, donc ça peut poser des questions, bien sûr, parce qu'ils ne notent pas de la même manière. Bon, mais dans les zones rurales, c'est compliqué. Mais en tout cas, ils sont en train de travailler là-dessus. Sur ce que vous avez dit, je ramasse un peu, enfin, je sais pas que je fasse voiture balai, mais je ramasse quelques remarques qui ont été faites, sur les coefficients. Alors, vous avez raison de dire que sur les coefficients du contrôle continu, les 30% là, on ne sait pas trop où on en est. Mais je crois que c'est au moins des polytechniciens qui sont en train de travailler, si vous voulez. Hein, parce que quand j'ai vu passer des notes de service, c'était un petit peu compliqué. Hein, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Par contre, sur les 60% du contrôle final, je pense que la décision est prise.
Oui, sauf que, attendez, stop. Je vous interromps là-dessus.
Ouais,
excusez-moi, mais je veux dire, c'est pour rendre aussi la discussion. 60, et c'est pour que l'assistance comprenne. 60% du contrôle final. Vous avez écrit dans votre rapport que ce 60%, moi je suis assez d'accord avec 60%, peut-être j'aurais donné un peu plus au contrôle final, mais je suis assez d'accord. Partons, ne faisons pas de raffinement, n'est-ce pas? Prenons votre hypothèse de 60%. Vous avez écrit dans votre rapport, et je l'ai noté, français 10, philosophie 10, Quand tu auras le 15, ça fait 10 plus 10, 20, plus 15, 35. Et les deux matières propres à l'élève dans sa discipline, ce qui l'intéresse, sa deux spécialités, 25. Alors, 10 plus 10, plus 15, plus 25, ça fait 60. Et donc je trouve, voyez-vous, Monsieur Mathieu, je trouve que dans votre propre proposition à vous, à l'intérieur de ces 60, votre proposition de coefficient donne plutôt trop d'importance au tronc commun et pas assez.
Alors, on échange. Hein. Donc finalement, ça n'est pas ça qui a été retenu.
Alors allons-y.
Donc c'est 15 et 15 spécialités. Donc 30% sur les deux matières de spécialité. Donc
alors on avance.
Ouais. Bon, en même temps, je pense que même si vous et moi on est d'accord, je pense pas que le ministre changera là. Donc 15 et 15.
Oui, ah oui, ça. Donc j'ai pas l'intention de changer le ministre.
Ouais, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, et là je crois qu'on est vraiment d'accord, c'est que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que un élève, son bac,
oui.
30% du bac qu'il va obtenir,
oui.
portera sur les deux matière de spécialité qu'il aura.
Ça, mais heureusement.
Ben, je suis d'accord. Non, voilà. Non, parce que et alors après, c'est 10-10-10. Donc 15 et 15. Parce que comme je suis pas scientifique, je suis content parce que comme Claude Tello est polytechnicien, ça fait 60. Donc 15-15.
Alors c'est
10,
bien,
10,
votre
10.
Grand oral est ramené à 10.
Oui. Oui, voilà. Oui, mais.
C'est à la fois bien et un peu triste, mais
oui.
C'est bien.
Bien sûr, mais attention, après, vous avez quand même exercé quelques responsabilités. Tout ce qu'on est en train de dire, il y a aussi une dimension de prise en compte des positions des acteurs, comme on dit en sciences politiques. Hein. Vous voyez, donc par exemple, je prends
très
un exemple
bien,
très
je
simple.
Je vois très bien.
Je pense que ça vous rappelle des choses. Hein. Je prends un exemple très simple. Claude Tello a dit tout à l'heure, il faut que la jeunesse fasse ce qu'elle a envie de faire. Oui, beaucoup plus. Bah, vous voyez, quand on était, j'étais en discussion avec les organisations syndicales, par exemple, mais aussi avec les fédérations de parents d'élèves, publics, privés, etc., etc., ce qui était très intéressant, c'est que vous aviez des positions assez diamétralement opposées. Les uns qui me disaient, mais qu'est-ce qu'un jeune de 15 ans aujourd'hui a en termes d'autonomie? Comment pouvez-vous envisager de lui donner une très grande liberté de choix? Il n'a pas la maturité. Donc, en gros, il faut qu'il y ait un tronc commun le plus longtemps possible. Il n'est pas en...
À 15 ans, oui, mais pas à 18.
Voilà, oui, enfin, à 18, en général, ils ont le bac. Hein. Pas moi, mais en général.
Pas tous.
Ouais. Et l'autre côté du spectre des organisations que vous connaissez, hein, qu'on va appeler les organisations réformistes, hein, qui, elles, disaient ce que vous venez de dire. C'est qu'ils disaient, non, la jeunesse, on veut leur donner le droit de vote à 16 ans et on ne voudrait pas leur donner la possibilité de choisir. Après, quand vous faites un rapport, moi, mon souci avec le rapport, c'était quand même que... Il puisse être applicable. Donc vous êtes obligé. Vous voyez, vous tenez compte des remarques qui vous sont faites et vous essayez de trouver un chemin de réforme, oui. De façon à ce que la plupart des gens globalement trouvent que c'est faisable et que c'est acceptable.
Non, mais attendez, là quand même, il faut faire attention aux arguments. Je ne crois pas qu'il faille seulement dire, comme vos organisations progressistes, que les jeunes de 17-18 ans, on leur donne le droit de vote et par conséquent, faut leur... Non, le fond de la question, c'est qu'on veut qu'ils réussissent à l'école.
Oui.
Or, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et donc, si vous leur donnez à apprendre des choses qui les ennuient, ils ne réussiront pas. Ce n'est pas du tout parce qu'on leur donne le droit de vote, parce qu'ils sont majeurs, parce que ceci, parce que cela. C'est qu'après avoir donné un socle au cours de la scolarité obligatoire et en seconde, c'est-à-dire tout le collège et la seconde, après avoir donné ça, c'est-à-dire à peu près la même chose pour tout le monde, parce que notre système éducatif est un vivier qui permet à toute la génération, tous les membres de la génération, d'avoir en somme des choses qu'ils partagent, qu'ils en sont, après avoir donné ça et réussi ça, réussi le collège et réussi la seconde, en termes de socle commun. Il faut bien plus donner de la liberté de choix pour dire aux jeunes gens, voici ce que je vous propose d'apprendre et qui vous plaira. Et puisque ça vous plaît, alors évidemment, je vous rejoins, il faut bien organiser l'orientation, bien organiser l'accompagnement pour qu'ils sachent ce qu'ils ont envie de faire. Il ne faut pas naturellement que tout le monde nous dise « je veux être pilote de ligne ». Évidemment, Air France ne pourra pas les embaucher. Donc ça, c'est pas... bon. Mais il faut les aider à savoir ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et dès lors qu'ils savent mieux ce qu'ils ont envie d'apprendre, alors à ce moment-là, il faut leur dire « écoutez, vous apprenez ce que vous avez envie d'apprendre, voulez-vous réussir ? Je vais vous aider à réussir, mais vous allez réussir. » Et à ce moment-là, on saura ce que le baccalauréat donne. Et le baccalauréat dira, ils sont bons dans leur matière de spécialité. voyez,
nous arrivons au terme de cette discussion. Pierre Mathiot, un mot de conclusion.
Mais sur ce qui m'a été dit, et Claude Tello le sait, moi dans mon rapport, je proposais qu'il y ait plus d'heures de spécialité que d'heures de tronc commun.
Oui, hein, mais c'était très bien.
Voilà. Après, ayons en tête, je vais dire quelque chose, malheureusement, faire l'hypothèse que les élèves aujourd'hui, même en bac général, à la sortie de la seconde, n'auraient plus besoin d'être en commun. Je pense que, enfin voilà, non, mais on est d'accord, hein, il faut qu'ils aient besoin encore d'heures de tronc commun, et en particulier, moi je me suis beaucoup battu pour que, et ça a été retenu finalement, que tous les élèves aient des enseignements scientifiques communs jusqu'au bout du lycée, parce que autrement, moi je trouve que c'était un peu, je ne suis pas du tout un scientifique au sens des sciences dures, mais je trouve que c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui en France, notamment à l'école primaire, que les professeurs des écoles, qui sont pour 90% d'entre eux au moins des gens passés par les filières littéraires, n'aient pratiquement pas de culture scientifique. Évidemment, ça a des effets ensuite en termes de, vous voyez, d'abandon de filières scientifiques ensuite, et on a un vrai problème en France. Voilà. Après, pour terminer, c'est aussi du compromis, de l'écoute d'acteurs extrêmement différents. Donc, il faut bien fabriquer à un moment donné une ligne de réforme. On y est là, je pense. Voilà.
Écoutez, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation vivante, claire, argumentée de ce qui nous attend, enfin ce qui nous attend, ce qui attend les élèves qui sont aujourd'hui en classe de troisième dans les trois années qui viennent. Merci beaucoup.
Alors, ce n'est pas terminé, ne partez pas trop vite. Nous, donc, la partie retransmise est terminée, donc vous pouvez.
Donc, on peut se lâcher maintenant.
Voilà, exactement. il y a des micros circulent dans la salle pour des questions. Je pense que ça ne manquera pas.
On commence par.
Il y a déjà des mains qui se lèvent. Voilà, j'en vois qui se lèvent.
Alors, il y a la question de Bordeaux, traditionnellement.
Alors, la question de Bordeaux. Qui transmet la question de Bordeaux? Voilà.
La question de Bordeaux.
Nous avons un groupe d'auditeurs que nous saluons à Bordeaux.
Alors, la question de Bordeaux.
Okay. Donc, bonsoir. La question de Bordeaux est la suivante. Au-delà de l'aspect technique, comment redorer l'aspect rite de passage du baccalauréat?
Alors, qui répond?
Attendez, alors là, il faut faire très attention, monsieur, à cela. Je m'excuse de prendre la parole de façon assez nette. Tous les gens, y compris lorsque j'étais moi-même au ministère, tous les gens qui disaient le baccalauréat est le rite de passage de notre jeunesse. Et c'est ça qu'il faut préserver, c'est ça qu'il faut redorer, c'est ça qu'il faut... Il faut faire très attention à dire ça, parce que 20% de notre jeunesse n'a pas le baccalauréat. Et si vous dites c'est le rite de passage pour devenir un adulte, alors ça veut dire qu'il y a 20% de notre jeunesse à qui vous n'offrez pas la possibilité de ce rite de passage. Et donc, je ne crois pas qu'il faille s'exprimer dans ce terme de rite de passage. On n'est pas du tout comme dans les sociétés primitives à de la scarification pour les adolescents qui passent à l'âge adulte à 15-16 ans. Pas du tout. Pas du tout. S'il y avait 100% de Français qui passaient le baccalauréat, je vous suivrais. On n'est pas dans ce cas-là. Et vous avez, y compris, si vous voulez, alors évidemment, on parle du baccalauréat, mais nous avons un biais de réflexion. Et un biais de discussion et un biais d'analyse à se porter sur les 80% qui, en effet, ont la chance de passer le baccalauréat et d'y arriver. Alors, si maintenant je me fixe sur ces 80% en refusant de qualifier ça de rite de passage, alors je peux vous garantir que c'est un événement dans la vie des jeunes gens. C'est d'ailleurs aussi un événement dans la vie du ministère. Et en particulier, chaque année... Je donne cette petite anecdote, si on a une minute. Chaque année, la question du taux de réussite était très extrêmement importante par rapport à l'année dernière. Si le taux de réussite de l'année dernière, si le taux de réussite de cette année est plus élevé que le taux de réussite de l'année dernière, c'est que le système éducatif est laxiste. On laisse passer n'importe qui, tout le monde a le bac, c'est un scandale. Si le taux de réussite de cette année est plus faible que le taux de réussite de l'année dernière, c'est que les élèves sont nuls. Et par conséquent, la seule solution pour le ministre, c'est que le taux de réussite soit exactement le même, et il prie pour ça toute la journée, que l'an dernier.
C'est le cas maintenant, hein. C'est à peu près ça maintenant quand même. Ça,
et donc, si vous voulez, je crois que c'est un véritable événement national, qu'il n'y a pas besoin de le redorer au-delà de ce qu'il est, précisément parce que, je le répète, 20% de la jeunesse n'a pas l'occasion de participer à cet événement national, et par ailleurs, c'est un examen de fin d'études secondaires. Nous avons beaucoup parlé de l'enseignement supérieur et M. Mathieu a raison de nous inciter à y réfléchir. Mais c'est aussi un examen de fin d'études secondaires, externe et national, mais de fin d'études secondaires. Et par conséquent, il est naturel que cet examen soit réussi, disons, de l'ordre de 90% des élèves le réussissent et ceux qui ne le réussissent pas redoublent et le réussissent l'année prochaine, l'année suivante. C'est assez naturel et à chaque fois, c'est une épreuve dans tous les sens du terme et c'est pas la peine d'en rajouter.
Mais il y aura quand même, je me tente de me glisser dans... J'ai trouvé mon maître là, en termes de prise de parole. C'est que je pense que le fameux grand oral, si vous cherchez du rituel, vous voyez, pour uniquement ceux qui le passent, là je pense que les élèves vont avoir un petit peu de stress, vont peut-être s'habiller différemment. Vont, vous voyez, donc moi je pense que là, pour le coup, si on veut redonner, enfin, on n'a pas redoré le blason du bac, je suis complètement d'accord.
Sauf les futurs universitaires, par exemple, qui ne mettent pas de cravate. Voilà, c'est ça.
Bah, je suis pas un futur universitaire, moi, je suis depuis longtemps. Non, mais voilà. Donc, oui, mais là, vous comprenez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, franchement, vous savez, moi, quand j'ai pensé juste grand oral, je l'ai appelé comme ça, pas parce que c'était Sciences Po, mais dans le côté un peu dignité de ce moment.
Hein. C'est une belle épreuve.
C'est une épreuve, oui, au sens où les élèves vont y aller en se disant, je vais m'exprimer devant des adultes que je ne connais pas, etc. Voilà.
La presse a parlé de grand oral républicain. Vous validez la formule?
Oui, mais ça, grand oral républicain, c'est pas grand oral monarchique. Hein, donc, si vous voulez, non, mais parce que je pense que la presse, comme ça vient d'être dit, comme il n'y a plus le service militaire, enfin, on cherche un moment de rituel universel qui concernerait l'ensemble d'une jeunesse. Alors le service militaire c'était pas le cas puisqu'il y avait que la moitié des Français et encore on ne parle pas de tous les planqués qui ne le faisaient pas. Mais comment dire?
La politique à moi, c'était de donner cette fonction de rituel à un examen que tout le monde passe, c'est-à-dire le brevet des collèges, et qui en plus prend place à la fin de la scolarité obligatoire, et de redorer. Monsieur, je reprends votre terme. Redorer le brevet des collèges, y compris en donnant un parchemin, y compris en ayant la signature aux yeux. Non, et puis que, du coup, on l'encadre comme autrefois on encadrait le certificat d'études. Et ça, tous les élèves passent le brevet des collèges.
Mais le brevet des collèges, enfin, ce qu'on appelle le DNB, les collèges maintenant organisent à la rentrée des moments, ils distinguent, mentionnent très bien, etc. Donc ça, c'est mis en place.
Pour les collèges, oui.
Ouais, pas pour le lycée.
Au niveau national, non.
Non, au niveau national, non, tout à fait. Oui.
Alors, on va avancer dans les questions. La tradition, c'est de prendre plusieurs questions en même temps. Donc, une main qui s'est levée. Au premier rang, enfin, c'est pas le premier rang, mais enfin.
Il faut faire attention à l'équilibre homme-femme, attention, hein, on est aujourd'hui.
Je vais essayer de veiller à tout, le temps de parole, l'équilibre homme-femme, voilà.
Allez-y. Permet de faire une réflexion. C'est compliqué d'organiser le contrôle continu compte tenu des grèves qui peuvent survenir. Comment faire?
Alors, voilà, une objection. Alors.
C'est une question.
Attendez. Avant de répondre, entendons d'autres. Écoutons d'autres questions.
Est-ce qu'une des façons d'organiser ce contrôle continu pour qu'il soit national et que ne dépende pas trop des humeurs des professeurs correcteurs, est-ce que ça ne serait pas de faire des questions multiples comme font les États-Unis tester les connaissances de leurs élèves? Contrôle continu, les QCM en fait.
Non, du QCM. Voilà, et puis une main qui s'est levée, il y a beaucoup de mains qui s'élèvent. Enfin, le monsieur pour l'équilibre homme-femme. Du milieu, et on restera là pour une première série. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains qui se levaient, vous les releverez quand je vous le dirai.
Oui, hein.
Allez-y.
Une question à monsieur Tello. Vous disiez que la réforme du bac ne vous semblait pas pour vous la priorité d'un programme électoral. Quelles sont pour vous les priorités avant le bac?
Alors, vous avez retenu les questions.
Alors, moi, je réponds aux deux premières et Claude Tello, il répond à la troisième.
Voilà.
Hein, d'accord. Alors, les grèves. Écoutez, non parce que les syndicats d'enseignants qui appelleraient à boycotter le contrôle continu, à mon avis, se prendraient l'opinion publique contre eux. Très clairement, il n'y a jamais de grève. On pourrait imaginer que là déjà, il puisse y avoir des grèves de correction des copies du bac. Ça n'arrive jamais. Donc moi, je crains pas du tout cela. Les enseignants, vous savez, ils peuvent, ils râlent un peu, mais il faut regarder le grand oral, par exemple. Quand moi j'ai présenté ce projet de grand oral, beaucoup de syndicats d'enseignants m'ont dit c'est ni fait ni à faire. Hein, vous avez peut-être un petit peu suivi tout ça. Et maintenant ils sont en train de se mettre en ordre de bataille. Pardon? Ah, grève de trop. Non, mais attendez, madame. Puis la guerre aussi. Attendez, vous avez une attaque nucléaire. Hein, non. Je pense que ça devrait aller. D'ailleurs, on est en grève SNCF. Bon, ça marche. Question multiple. Enfin, en fait, bon, moi je suis plutôt contre, mais parce que, enfin. En même temps, Par contre, je reprends ce qu'a dit Claude Tello tout à l'heure, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est en réflexion en ce moment, c'est de mixer le type d'évaluation qu'on demande aux élèves. Voilà. Claude Tello tout à l'heure parlait, en gros, c'est la sacro-sainte disserte partout. Je trouve que la disserte, ça ne mesure qu'une compétence, c'est pas la peine de la mesurer 5 fois, mais c'est 5 matières différentes. En revanche, donc de dire, il y a le grand oral maintenant qui va tester une compétence nouvelle, bien entendu. Une disserte, par exemple, la philo, parce que c'est de tradition, mais on peut imaginer que dans d'autres matières, dans d'autres disciplines, on demande aux élèves de faire autre chose. Il y a quelque chose qu'on fait pas en France, le commentaire de texte, alors que en fac de droit, on le fait en français, mais on le fait pas dans d'autres disciplines. Oui, un peu en histoire, mais il y a, si vous voulez, il y a plein de. En fait, si vous voulez, pour résumer, les épreuves aujourd'hui qui structure le baccalauréat, ne permettent pas de mesurer l'ensemble des compétences attendues par un jeune dans l'enseignement supérieur, dont d'ailleurs l'oral, d'où le grand oral. Donc, si les questions multiples, parce qu'elles sont beaucoup stigmatisées, les questions multiples, bon, faut pas oublier, vous le savez sans doute, que pour passer en deuxième année de fac de médecine, c'est que ça. Bon, et moi, ça m'interroge quand même globalement hein, sur les gens qui vont nous soigner après, mais bon, c'est que ça. Faut pas oublier non plus que dans les facs d'économie aux États-Unis, les meilleures facs d'économie aux États-Unis, jusqu'au master inclus, ce ne sont que des questions multiples. Ils font pas de dissertation. Donc moi, je vous répondrai en disant pourquoi pas, mais dans une réflexion sur une pluralisation des manières d'évaluer les élèves pour qu'ils puissent être évalués sur des compétences diverses, pas simplement la disserte. Voilà. Je m'arrête là.
Je pense que Monsieur Mathieu a raison, Madame. Faut faire attention. Introduire des questions à choix multiples au prétexte ou parce que l'organisation d'un contrôle continu externe et national est compliquée, ça c'est sûrement faire mourir la question. Ce qu'il faut, c'est introduire éventuellement une part de questionnaire à choix multiples, précisément sous l'angle que vient de développer M. Mathieu, c'est-à-dire parce que c'est de nature à mettre en valeur au cours du baccalauréat d'autres compétences que d'autres études, que d'autres types d'évaluation. Et c'est pour ça que le point central de cette réforme à venir, c'est qu'est-ce que on va mettre comme épreuve et avec quel coefficient. C'est le point central.
Priorité.
Ah oui, mais ça, c'est pas dans le sujet de ce soir. Moi, je veux bien répondre de 3 phrases, monsieur, ce que je considère comme étant les priorités de notre système éducatif, mais c'est pas dans le sujet de ce soir. Donc, c'est d'une certaine façon, c'est assez ridicule ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même, puisque vous m'incitez à le faire. Donc, je pense que la première chose, c'est d'insister beaucoup plus sur le primaire que ce que fait le ministre. Je pense, si vous voulez, un système éducatif, c'est comme un architecte. Et c'est pas la peine d'avoir un bon baccalauréat, de même que c'est pas la peine d'avoir un bon toit si vous n'avez pas de bonne fondation. Et donc, un bon baccalauréat, c'est pour ça que c'était pas utile de le faire. Ce qui est fondamental à faire, c'est d'avoir de bonnes fondations, c'est le premier point. Beaucoup plus le primaire qu'aujourd'hui. Le ministre le fait d'ailleurs, mais oui. À mon avis pas assez, et ce qu'il fait risque d'être menacé par ce qu'il fait autrement. Deuxièmement, il me semble qu'il faut beaucoup plus accompagner les élèves et du coup accompagner les professeurs. Parce qu'aujourd'hui c'est très difficile d'instruire et d'éduquer la jeunesse telle que la jeunesse est. Et par conséquent, il faut aider et accompagner les professeurs à le faire et pas simplement aider et accompagner les élèves. Il faut aider et accompagner les professeurs, et pas simplement en termes de formation initiale. C'est un professeur qui est professeur pendant 35 ou 40 ans de sa vie, et dans sa vie, il a des moments où c'est extrêmement dur d'être un bon professeur vis-à-vis de ses élèves, parce qu'il lui arrive des tas de choses dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Et par conséquent, il faut accompagner les professeurs, ce que nous refusons à faire. Les inspections sont inexistantes, ça ne sert à rien, c'est ridicule, etc. Et enfin, troisième chose, et qui est, à mon avis, capitale pour les élèves, pour les parents d'élèves et pour les grands-parents d'élèves comme vous, monsieur et comme moi, c'est qu'il faut absolument égaliser la qualité de notre enseignement, de l'offre de notre enseignement sur le territoire. On ne doit plus avoir des mauvais et des bons collèges, des mauvaises écoles primaires et des bonnes écoles primaires, des mauvais lycées et des bons lycées. On ne doit plus avoir ça. Et il faut donc avoir une politique de compensation qui fasse qu'à l'arrivée, ce que le système éducatif offre aux jeunes gens et à travers les jeunes gens à la population française soit de même qualité partout sur le territoire. C'est une politique extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et je pourrais la décliner, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais c'est beaucoup plus prioritaire, à mes yeux, que la réforme du baccalauréat général.
Ouais, je dis juste un point, je suis vraiment là-dessus, je suis d'accord avec ce qui a été dit, évidemment, quand on a... Alors je dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait la réforme, comme je défends la paternité du truc, mais c'est vrai que
à l'entrée au lycée, beaucoup de choses sont déjà jouées, surtout au lycée général, beaucoup d'élèves ont disparu du système avant, donc ça se joue évidemment avant. Moi j'ai une hypothèse un peu politique, c'est que le ministre, en réussissant la réforme du baccalauréat, en tout cas dans l'opinion publique, se donne des gages de soutien de l'opinion publique pour réformer peut-être d'autres espaces du système éducatif où il est plus difficile de réformer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, tout à l'heure, Claude Tello disait « Je crains que, en ratant ou en n'arrivant pas à réformer le bac, il embolise l'ensemble du ministère et qu'il n'arrive plus à toucher à rien. » Au moment où on se parle, ça peut changer. Mais au moment où on se parle, l'opinion publique, ce qu'on appelle l'opinion publique, mais comme disait Bourdieu, elle n'existe pas, mais semble suivre, voire même plébisciter la réforme du bac et du lycée, même si le diable se niche dans les détails ensuite. Mais et moi, l'hypothèse que je fais, c'est que ça contribue aussi à la popularité ou à la respectabilité très forte du ministre, et ça lui donne des marges de jeu pour agir sur d'autres segments, parce que je peux en témoigner, je le connais très bien, sur le primaire, vous savez bien, Claude Tello, il est très motivé, il sait bien que c'est sur le primaire qu'il faut agir.
Qu'importe.
Voilà. Voilà. Alors, les mains se sont levées. Il y avait, la dame. Exactement.
Donc, j'avais aussi une question sur le contrôle continu. C'était comment on peut laisser la place à des évaluations pour apprendre, pour que les élèves apprennent, des évaluations formatives qui permettent de les voir avancer pas à pas, quand on donne tant de place à des évaluations
sommatives,
externes. Et national à des dates pendant des périodes très très courtes.
Oui.
Voilà. On continue dans les questions. Oui. La dame en blanc derrière, l'avant-dernier rang, qui levez le bien. Ah oui, bon, il y en a plusieurs. Bon, voilà, c'est bien.
Oui, le bac New Look contribuera-t-il? Et avec son organisation tronc commun et enseignement de spécialité, à briser ou tout au moins à atténuer cette sacro-sainte hiérarchie du système actuel, le bac scientifique, le bac économique et social et le bac L, avec la contradiction que monsieur a soulignée, c'est qu'on a besoin de scientifiques en même temps. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose de très important dans dans ce système très hiérarchique. Je ne sais pas comment vous voyez les choses et l'évolution de ce problème.
Très bonne question.
Merci. Alors, vers la droite, il y a plein de mains qui se sont levées. Je ne sais plus qui. Voilà.
Ma question rejoint celle de madame, c'est les stratégies de réussite scolaire et d'évitement que mettent en place les parents. Je pense que c'était un des buts de la réforme de les atténuer. On voit le nombre d'élèves non scientifiques qui vont S aujourd'hui, c'est assez triste. Et donc finalement, est-ce que ces stratégies ne risquent pas de se remettre en place, notamment s'il y a des binômes d'options qui sont recommandés finalement? Qu'est-ce qui va inciter les élèves à choisir une option langue ou une option histoire-géo quand on sait que finalement donc est-ce que c'est pas au supérieur aussi de mettre en place des passerelles, je sais pas.
On va rester là, sauf si la question, sauf si une question qui porte sur le même sujet. C'est le même sujet, alors allez-y.
On va faire un prix gros.
Bonjour. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par monsieur Mathieu, qui est de dire il y a un hiatus entre l'enseignement supérieur et ce qui se passe au lycée, donc il faut réformer le lycée. Je vais être volontairement polémique. Pourquoi ça serait au lycée de s'adapter? C'est-à-dire que c'est très bien, nous on encadre les élèves, on fait pas mal de choses, mais pour rejoindre la question qui vient d'être posée, c'est aussi peut-être qu'il faut penser à ce que l'université s'adapte aux nouveaux élèves qui arrivent. Moi je passe ma vie à avoir des élèves qui veulent faire tech de co alors qu'ils sont en ES. Pourquoi pas faire des facs avec des promos 40, avec des cours personnalisés, etc. Parce que là, on dit que le lycée doit s'adapter, c'est une bonne chose, mais si l'université ne s'adapte pas derrière au profil qui arrive, votre réforme du lycée ne servira à rien. Même si je pense que s'il y a des bonnes propositions dans ce que vous dites.
Merci. Alors, qui ou le feu?
Je pense qu'on peut parler les deux des quatre thèmes, mais bon, oui. Alors. Bon, évaluation formative, sommative, etc. Alors là encore, je peux vous raconter ce que j'ai pendant les discussions que j'avais. Moi, j'avais proposé en fait qu'on supprime les notes.
C'est bien un universitaire, ça.
Bah, vous savez, dans mon école, on vient de supprimer les notes en chiffres.
Mais c'est ce que, oui.
Hein, on vient de passer, on évalue en compétences dans mon école là, en première année, d'accord. Les élèves se rebellent un peu parce que, évidemment, ce sont les meilleurs élèves du système français. On a 16 sur 20 de moyenne au bac dans mon école à l'entrée. Donc, les élèves étaient habitués à avoir 16, 17, 18, 20 au bac. Et d'un seul coup, on leur dit maintenant, vous êtes notés en lettres et sur vos compétences. Donc ils se rebellent. Et nos profs, qui sont souvent des bons élèves du système, ce qui n'était pas mon cas, se rebellent aussi. Bon, donc, oui, vous avez raison. Alors moi, ce que j'ai proposé, et je crois que ça va être retenu finalement comme expérimentation, c'est ce que j'ai appelé le supplément au diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le bac, c'est à une colonne de notes. Hein, voilà, philo, vous avez tant, et puis vous vous en rappelez 50 ans après, vous le mettez sur votre rubrique nécrologique, etc. Mais il y a que ça, en fait. Et c'est comme un sondage, c'est une photographie. À un moment donné, on a passé l'épreuve de maths, on a eu 20, et puis ça nous suit toute notre vie. Je pense que ça n'épuise pas du tout, loin de là, ce qu'a fait un élève au lycée. Hein, on est d'accord. Donc moi, je crois qu'il faut, sur la base de ce qui se fait au collège, et c'est difficile de le dire aux collègues enseignants au lycée qui disent « Ah, vous êtes en train de vouloir emboliser le lycée de ce qui a raté au collège », c'est d'aller vers l'évaluation par compétence. Donc moi, j'ai proposé qu'on ait un supplément au diplôme qui, à côté de la colonne de notes, propose justement une évaluation de formative, c'est-à-dire dire ce que l'élève a fait au lycée, comment il a progressé, etc. etc. Voilà. Sur la base de l'expérimentation, parce que ce que je viens de dire, Claude Tello l'a dit, on n'est plus enregistré, les corps d'inspection s'arrachent les cheveux, ils disent que c'est n'importe quoi, beaucoup d'organisations syndicales, d'enseignants sont contre, parce qu'ils sont habitués, hein, c'est le dilemme du prisonnier, ils sont habitués à la note sur 20, mais qui participent de leur autorité, si vous voulez. Si d'un seul coup, on ne pouvait plus mettre un 5 à un élève, mais on devait... vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est horriblement compliqué. Bon, je m'en tiens là parce que on va faire question par question. Donc je pense que...
Non, mais je veux dire, votre question, madame, a aussi une dimension. Je ne rentre pas dans la question des notes et tout ça parce que c'est un sujet à soi seul. Ouais, peut-être que nos amis jésuites pourraient le faire un soir si ça intéresse, mais votre question a une dimension temporelle qui est importante, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer sa vie dans l'école à faire de l'évaluation certificative, ce qui est le risque du projet.
Ouais, du coup, on continue.
Et donc, moi, je vais vous dire une chose qui, naturellement, n'engage que moi, comme d'ailleurs depuis le début de la soirée. Et d'ailleurs, si j'étais encore aux affaires, je crois que je ne pourrais pas le faire et je crois que je ne le dirais pas. Mais je vais le dire maintenant. Je crois que toutes ces affaires de contrôle continu, externe et national sur... épreuves sur banque nationale, corrigées par d'autres professeurs que les vôtres et tout, ça doit se faire en dehors des heures de cours.
Oui.
Ça doit se faire en dehors des heures de cours. Et il faut donc inscrire dans le service des enseignants qu'ils ont à faire ça. Il faut donc inscrire dans la formation des enseignants qu'ils ont à corriger de façon homogène ce genre de choses. Il faut donc aider et accompagner les enseignants à faire ça. Autrement dit, la question... de ce contrôle continu new look externe et national, c'est pas simplement sa lourdeur, c'est aussi toute une formation, accompagnement des enseignants, de telle sorte que ça ne bouffe pas le temps d'enseignement et que ça se fasse hors du temps d'enseignement. Et alors à ce moment-là, restera dans le temps d'enseignement ce que vous avez raison d'appeler l'évaluation formative, qui doit accompagner normalement un processus éducatif que le professeur met en place, il voit les progrès des élèves, etc. Et ensuite, on voit cette affaire certificative en dehors du temps de formation. Vous comprenez? Alors ça, dans un monde de Sirius, c'est-à-dire pas sur la planète Terre, c'est si vous aviez, après la Révolution française, à reconstruire notre système éducatif, c'est ça que vous devriez faire.
Oui, en précisant, parce qu'on a beaucoup travaillé, on a bien travaillé, c'est que cette question de savoir quand est-ce qu'on fait les... C'était tout bête, mais quand est-ce qu'on fait les évaluations certificatives a été posée. Moi, j'ai proposé que ça ait lieu le mercredi après-midi ou le samedi matin.
Excellent.
Ouais, mais attendez, une fois que vous dites ça, bon, le samedi matin, je passe sur un certain nombre de... sur une communauté religieuse qui peut avoir des petits soucis, même si elle est peu nombreuse en France. Alors, j'ai proposé de le faire le vendredi pour embêter une autre communauté religieuse. Non, mais je rigole. Pour embêter... je faisais de l'humour, enfin. Et le mercredi après-midi, oui, mais il y a les activités sportives, artistiques, culturelles, donc. Et puis, il y a les systèmes de bus, parce que les gamins, vous savez, ici, on est à Paris, bon, mais les élèves, il y a les bus, le conseil régional, donc c'est compliqué, mais on y a pensé. Alors, deuxième question, hein, j'anime la conférence, nos amis jésuites sont endormis. Donc, hiérarchie des filières. Alors, hiérarchie des filières. Alors, historiquement, dans la salle, on a passé des bacs tous très différents. Hein. Moi, j'ai passé un bac A, mais en fait... Écoutez, globalement, quand ça a été le latin, après ça a été les maths, on est passé de, moi quand j'ai passé le bac, c'était C, D, etc. Pour une partie, c'était ça. Et puis après, on est passé à, et à chaque fois, il y a une espèce de re-hiérarchisation qui s'est mise en place. Et aujourd'hui, c'est, attention, aujourd'hui c'est pas S, hein, c'est S option mathématiques, parce que vous avez combien, 180 000 bacheliers S. Donc la filière S, 52% du bac général, n'est pas une filière d'élite. Parce que l'élite, c'est la rareté, je sais pas. Mais... Et quand vous avez 52% des bacheliers généraux qui passent un bac S, c'est pas une filière d'élite. Mais dans le bac S, vous le savez bien, il y a l'option mathématique qui... ce qu'on va faire, là, la réforme, je ne dis pas que par la fenêtre va réapparaître une filière d'élite. La filière d'élite, ce serait probablement spécialité maths et physique. Alors attention, deux choses ici qui me laissent à penser que peut-être ça va pas se passer. Première chose, probablement il va pas y avoir de binôme imposé. C'est-à-dire que probablement, on a hésité au ministère, probablement ils vont pas dire les deux spécialités de terminale, c'est maths physique, maths SVT. Vous rappelez, si vous avez suivi les débats, il y a eu plein d'affrontements, des SVT qui disaient on veut y être, etc. Bon, a priori, on va être sur le mode de dire un élève, il va choisir deux disciplines en terminale de spécialité. Mais il va choisir ce qu'il voudra. Alors après, ça va poser des problèmes d'organisation dans les bahuts. Première chose. Deuxième chose. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le bac S en ayant moins de 5 en maths et en physique. Vous le savez, avec... les points d'option.
Compensation.
Et donc, vous le savez sans doute, il y a une enquête qui a été faite il y a quelques années qui montrait que 50% des bacheliers S ne voulaient pas faire d'études scientifiques. Bon, les parents sont en cause ici, hein, si je puis me permettre, mais bon, passons. Là, et Claude Tello va être d'accord avec moi, j'en suis sûr, 15% épreuves de spécialité. 30% du bac, ça sera les deux épreuves de spécialité. Un gamin qui fera maths physique parce que papa-maman lui auront dit, en faisant maths physique, tu ne te coupes d'aucune possibilité d'études supérieures. Eh ben, maintenant, s'il a 5 et 5 en maths et en physique, dans le nouveau bac avec 15% et 15%, il aura sans doute son bac. Mais il l'aura pas dans de très très bonnes conditions. Donc moi, je pense que ça... qui est une forme de risque, je ne sais pas, la compensation. Ça va probablement avoir des effets plutôt positifs en termes de d'organisation. Mais clairement, quand des gens plutôt hostiles à la réforme me disent, de toute façon, il y a des filières d'élite qui vont se reconstituer, moi j'aurais tendance à dire que, on est dans un système éducatif quand même relativement libéral, on va pas interdire à un gamin qui veut faire maths physique de faire maths physique en lui disant, filière d'élite, tu ne fais pas. Voilà, on y peut pas grand-chose quand même, quelque part.
Ça, c'est évidemment, madame et monsieur, aussi une des questions centrales du lycée encore plus que du bac, ou du bac comme couronnement du lycée. Alors, il faut s'accorder sur deux ou trois préalables sur cette question. La filière scientifique n'est pas une filière scientifique. La filière scientifique, aujourd'hui, dans notre lycée, c'est la filière des bons élèves.
C'est le bac général.
Bien.
C'est le bac général.
C'est la filière des bons élèves. Et par conséquent, la question centrale de la réforme du lycée et de la réforme du baccalauréat, vu sous votre angle à vous, madame, la question centrale, c'est de faire émerger simultanément trois filières d'excellence. Une filière scientifique qui n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, la filière dite scientifique est la filière des bons élèves. Une filière littéraire d'excellence qui n'existe encore moins. Et une filière économique et sociale d'excellence. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point. Il est impossible que ces trois filières ne soient pas en partie hiérarchisées puisque nous vivons dans un monde hiérarchisé. Et donc les excellences auront beau être les excellences, elles seront fatalement un peu hiérarchisées. Cela étant, et c'est ce qu'on avait tenté de faire en 92, alors ça c'est le vieux combattant qui parle, mais avec des succès évidemment tout à fait modestes. La seule façon, je pèse mes mots, la seule façon d'empêcher que tous les bons élèves se précipitent dans une filière, quelle qu'elle soit, qu'on baptisera scientifique et qui sera tout sauf scientifique, la seule façon d'empêcher ça, madame, est de faire donc émerger d'autres excellences que celle-là, c'est d'empêcher, et je pèse mes mots, d'empêcher que dans la filière dite scientifique des bons élèves, on puisse tout faire. Tout faire. Et de ce point de vue, le tronc commun du ministre n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tronc commun? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que ça nous développait les affaires. Je prends le tronc commun, par exemple, de terminale, qui représente dans le projet du ministre 15h30 sur 28 ans. Sur 27,5. Donc 15h30 sur 27,5, je répète ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, c'est plus que la moitié, ce qui n'est pas raisonnable. Ça devrait être moins de la moitié, ce tronc commun.
Hors option.
Mais oui, hors option, naturellement. Je ne m'occupe pas des options, parce que ça, c'est tout à fait... Alors, je vais vous raconter les options après. Bon. Donc, 15... Qu'est-ce qu'il y a dans le tronc commun du ministre maintenant? Parlons d'autre chose que des horaires, parlons du contenu, madame. Philosophie. Histoire et géographie, langue vivante 1, langue vivante 2, éducation morale et civique, éducation physique et sportive, humanité scientifique et numérique. Autrement dit, vous mettez tout dans le tronc commun, et ensuite, les scientifiques prendront les sciences, les autres prendront le reste. Mais en vérité, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Si vous voulez faire émerger une filière littéraire, il ne faut pas mettre des tas de choses à dominante littéraire dans le tronc commun, et il faut les réserver aux enseignements spécialités de la filière littéraire que vous voulez créer. Vous comprenez? Il faut qu'en filière économique et sociale et en filière littéraire, on puisse faire des choses qu'on a envie de faire et que les scientifiques ne font pas parce qu'ils sont en filière scientifique. Si vous permettez à une filière de pouvoir tout faire, vous voyez? C'est d'ailleurs pourquoi j'étais tout à fait, mais alors tout à fait opposé au projet d'un autre candidat à l'élection présidentielle il y a quelque temps, qui disait il ne faut pas faire une filière de scientifiques, il faut faire une filière à la fois de bons scientifiques et de bons littéraires. Alors là, c'est vain, si vous faites une filière de bons scientifiques et de bons littéraires, il n'y a plus que les bons élèves dedans, c'est terminé, le reste c'est rien. Comprenez? Donc c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ça c'est Sauvy. Sauvy, c'est pas simplement la tête qui tire, c'est-à-dire le baccalauréat tire le lycée, c'est aussi la queue qui pousse, c'est-à-dire c'est les contraintes que vous mettez sur les filières. Je suis en filière scientifique, donc je ne peux pas tout faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Comprenez? Et en revanche, en filière littéraire, alors hop, je vais pouvoir faire 2, 3, 4 langues, parce que je suis linguiste. Mais si vous donnez aux scientifiques la possibilité de faire de langue et de faire le reste et de faire l'histoire géographie, de faire le tout, à ce moment-là, pourquoi est-ce que les gens iraient en scientifique pour faire scientifique? Il y aura naturellement la pondération de... Alors, vous voyez. Donc, il y a un problème d'horaire, il y a un problème de pondération, mais il y a aussi un problème de qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la filière X? Et qu'est-ce que je fais dans la filière X qui est spécifique, qui m'est propre, qui me donne de l'avantage dans le bahut et qui fait que en quelque sorte, les autres ne font pas la même chose que moi. Vous voyez? Ça, c'est capital. Si vous permettez, aujourd'hui, c'est la filière des bons élèves, pas simplement pour une question de coefficient au baccalauréat, parce que c'est dans cette filière qu'on peut tout faire.
Oui, et c'est aussi, je pense, de cette filière qu'on peut, à partir de laquelle on peut aller n'importe où dans l'enseignement supérieur.
Et dans, oui, mais... et dans les préparatoires en particulier.
Oui, bien sûr.
Donc, on n'a pas parlé des classes préparatoires, mais... C'est aussi,
Qui est une passion française, alors qu'il n'y a que 40 000 kékés qui y vont, alors qu'il y a 800 000 gamins qui ont fait Parcoursup. Mais c'est vrai que ça intéresse beaucoup.
Il faut faire attention. Il faut faire attention à garder les classes préparatoires de bonne qualité.
Oui, oui.
Y compris parce que madame a dit quelque chose de juste. Nous manquons de scientifiques.
Bien sûr, mais
Et le projet actuel du ministre ne va pas répondre à cette question.
Si, je pense, parce que...
Non, monsieur Mathieu.
On l'a pas dit, il y a une option maths expert, un élève qui voudra faire
non,
beaucoup de maths.
Non, monsieur Mathieu, cette histoire d'option de maths expert, écoutez...
Bah si.
Mais non, ça ne se fera pas, voyons.
Si, ça va se faire.
Mais si, ça va se faire, mais ça va pas être... Enfin bon.
On fera une soirée.
Bon. Alors, je vais répondre à la question...
Oui, la question du
parce
fond,
qu'il faut
la
quand même...
Oui.
Oui. Non. Alors, je pense que vous enseignez au lycée. Bon. Non, moi je suis d'accord avec vous. Je pense, alors plutôt, je crois qu'il y a, on parle là de l'enjeu du lycée et on parle du lycée, du bac, et donc faut qu'on parle de ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé liminaire, c'est-à-dire le lien avec l'enseignement supérieur. Bon, moi je suis d'accord avec vous dans le sens où je considère que il faut que l'enseignement supérieur descende plus au lycée. C'est une expression, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que en effet, comment le dire? Le lycée, vous étiez trop jeune pour le vivre, mais le lycée, à la fin des années 80, début des années 90, a subi un choc exogène majeur qui a consisté en l'arrivée massive d'élèves. Faut pas oublier que quand j'ai eu mon bac, donc en 1985, en Franche-Comté, comme Jean-Luc Poutier, 29% de ma génération avait le bac.
Mais c'était une très bonne année, monsieur Mathieu.
Ouais, j'ai une justesse, hein. Mais bon, donc 29% avaient le bac et c'était 66% de réussite au bac par rapport à ce que Claude Tello a dit tout à l'heure, ok? Il ne faut pas oublier qu'en 1995, 10 ans après, 62% d'une classe d'âge avait le bac. 29%, 62%. Donc en 10 ans, on a plus que doublé le nombre de bacheliers, donc le nombre d'élèves au lycée, pour aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Les profs de lycée, notamment les agrégés, l'ont vécu comme une crise professionnelle, parce qu'ils étaient, ils avaient une position dans l'espace social qui était une position.
Une mutation.
C'était une mutation très dure et très lourde. Aujourd'hui, les profs de lycée ont globalement fait ce virage. C'est clair.
Monsieur, c'est le métier qui a changé.
Voilà,
tout jeu.
Voilà. L'enseignement supérieur. Moi, avant d'être prof à Sciences Po, j'ai été prof et vice-président d'une université. Donc j'ai enseigné dans une fac de droit. Ce virage, voilà, il a lieu depuis 10 ans dans l'enseignement supérieur, pour aller vite. Vous voyez, c'est que depuis 10 ans, on accueille dans l'enseignement supérieur des élèves, pour le dire vite, dont les compétences ou les savoir-faire ne correspondent plus nécessairement à ce qu'un universitaire attend quand il commence un cours en première année. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous êtes recruté dans l'enseignement supérieur à des niveaux de sélectivité qui sont assez mortels, hein? En histoire, on a un recrutement, 1 mètre de cours pour 100 candidats, hein? Des gens qui ont fait normal sup Sciences Po, qui ont des niveaux extraordinaires, qui se retrouvent recrutés à la fac de Lille, qui arrivent en première année d'histoire et qui ont face à eux un public qui n'est pas le public auquel, quelque part, ils pensaient avoir affaire. Donc, la crise professionnelle que les profs de lycée ont connue, à mon avis, hein, au croisement des années 80-90, elle existe aujourd'hui à la fac. Et pour le dire autrement, dans tous les débats autour de Parcoursup, moi, je défends l'idée qu'il faut que nous, dans le SUP, on s'adapte à un public qui a changé et qu'on accueille un public qui a changé. Parce que si on continue à considérer qu'on doit continuer à faire cours comme dans les années 90... on a des taux d'échec majeurs, on a des élèves qu'on décourage au bout d'un cours et demi, et qui quittent les amphis, parce que le prof fait un cours, le gamin ne comprend rien au cours. Enfin, moi, j'ai eu des exemples d'élèves, j'ai la chance d'habiter dans un quartier populaire, d'avoir fait grandir mes enfants dans l'éducation prioritaire. J'ai des amis de mes enfants, ils sont allés en fac d'anglais, parce qu'ils avaient été refusés en DUT. Ils sont arrivés en fac d'anglais en première année d'anglais. Le premier cours de littérature anglaise, c'était un cours sur, Edith Wharton en anglais. Donc l'élève ne parlait pas anglais, ne savait pas qui était Edith Wharton, donc vous imaginez. Donc moi je suis d'accord avec vous, je pense que dans les problématiques aujourd'hui de l'accueil des élèves dans l'enseignement supérieur, il y a une problématique de moyens, parce que vous allez, il va encore y avoir 40 000 élèves de plus qui vont arriver dans le SUP l'année prochaine du fait du choc démographique de l'an 2000, mais ça se prévoyait ça normalement a priori, mais bon. Mais donc il y a une question de moyens, mais il y a aussi une question de rupture paradigmatique, comme on dit en sciences politiques, c'est-à-dire d'acceptation par les collègues du SUP, de la nécessité qui est la leur aujourd'hui, de savoir accueillir des élèves qui structurellement ont changé. Parce que tout à l'heure, Claude Tello parlait de former des vrais, des bons scientifiques, des bons littéraires. Ça existe, mais la vérité aussi est de dire que il y a une moyennisation des élèves de lycée et que les élèves qui sortent du lycée, malheureusement, hein, rencontrent des difficultés de maîtrise de la langue française. Je suis désolé, hein, de maîtrise de la première, voire de la deuxième langue vivante. Je l'ai pas dit parce que, en fait, tous les points que disait Claude Tello, ça me rappelait des souvenirs de ma mission. C'est que, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, j'avais proposé, c'est pas dans le rapport parce que je me serais fait zigouiller, j'avais proposé qu'il y ait anglais.
Pardon?
Anglais, pas LV1, qui est anglais. Et puis qu'il y ait une LV2, mais attention, qui ne s'enclenche que quand l'élève aurait fait un test questions multiples, etc., qui attestent qu'en anglais, il avait un niveau suffisant pour pouvoir enclencher une LV2. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui...
Vous êtes un rêveur, monsieur.
Oui, ben oui, je sais bien. Non, mais attendez, comme quoi j'y suis allé deux...
Je vous ai précédé dans ce rêve.
Ben voilà, mais écoutez, comme quoi ça des générations. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en gros, de dire, aujourd'hui, les élèves, on les force, enfin, les élèves fragiles, hein, pas... On les force à faire deux langues vivantes, LV1 et LV2. Au final, lorsqu'ils arrivent à l'université, ils ne maîtrisent ni l'une ni l'autre. Soyons un peu durs et allons-y. Donc, de dire, c'est peut-être mieux qu'ils maîtrisent une langue. Allez, l'anglais, qui est une langue véhiculaire. Et puis, peut-être une deuxième. Mais là, les contraintes, pour rentrer juste dans les détails, c'est que vous avez des profs de LV2 en France, d'espagnol, d'allemand, etc., qui, évidemment, tout de suite disent, moi, je me rappelle en audition, puisque j'ai fait comme vous, cher ami, j'y suis allé, ils m'ont dit, vous êtes en train de dire qu'on fait mal notre métier.
Oui.
Alors, parce que lui, il a la retraite. Moi, j'ai dit non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, non,
mais c'est parce que vous êtes jeune que vous dites ça. Parce que...
je le dirai dans 20 ans. Non, mais oui, donc c'est ça. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais c'est un choc. Enfin, c'est une transformation majeure. Et c'est aussi, moi, je crois, je sais pas si vous êtes agrégé ou certifié, mais moi, je défends beaucoup avec le ministre l'idée des services partagés entre le lycée et l'enseignement supérieur. C'est que je suis pour que des profs puissent faire une partie de leurs enseignements au lycée, une partie à l'enseignement supérieur, dans, agrégés, en fac.
Au moins et, les agrégés.
Ouais, les prags, mais on a aussi, ou aussi les personnes. Agrégés. Et que, il joue ce rôle de passeur.
Oui, mais monsieur Mathieu, ça c'est un sujet qui est particulièrement intéressant. Un agrégé sur cinq aujourd'hui dans notre pays est au collège. Un agrégé sur cinq, monsieur Mathieu.
Ah ouais.
Ça fait 30 ans que c'est
ouais, ainsi.
C'est purement scandaleux. Voilà des gens infiniment qualifiés, voilà des gens remarquables, voilà des gens pour lesquels on a dépensé une fortune et une intelligence pour leur formation. Ils restent au collège. On devrait interdire qu'ils soient au collège et on devrait faire ce que vous
ouais,
dites.
Alors,
vous... C'est-à-dire, mais si, qu'ils
ouais.
soient à cheval,
alors, parfois...
qu'ils soient à cheval au lycée, à l'enseignement supérieur.
Parfois,
c'est ça qui est utile pour eux, c'est ça qui est utile pour la jeunesse, c'est ça qui est utile pour le pays.
Oui, mais parfois ils restent au collège parce que, par exemple, ils préfèrent un collège parisien que un lycée en
et
banlieue.
Et ben, on a qu'à se débrouiller pour qu'ils ne le préfèrent pas. On les paye autrement.
Mais
que ça veut dire
non, mais on est d'accord. mais là-dessus, non, mais je le dis, hein, parce que là-dessus, le ministre, il y aura une initiative, oui, puis je crois qu'on doit arrêter, mais il y aura une, sur la base de l'expérimentation, comme ce que j'étais là sur le supplément au diplôme, le ministre est favorable à ce que certains rectorats mettent en place ce mécanisme. On doit 15 heures quand on est agrégé, on fait, je sais pas, 10 heures au lycée, 5 heures à la fac de maths du coin, et en plus, on a ce rôle, par rapport au lien SUPSCO dont vous parliez, on a ce rôle de passeur. On s'occupe de faire le lien entre le lycée et l'enseignement supérieur.
Évidemment,
voilà.
Évidemment.
Bien, je crois que nous arrivons, je parle sous le contrôle de mon voisin hôte de ces lieux, à la fin de ce débat absolument passionnant, qui me montre aussi, je parle à titre personnel là, que c'est parfois bien de vieillir parce que ce que vous venez d'évoquer sur les échanges à l'intérieur du collège-lycée et sur les échanges et l'interaction enseignement supérieur-lycée, quelqu'un que j'ai bien connu, qui était Laurent Schwartz, l'avait déjà expliqué dans un rapport remis en 1981 de façon extrêmement détaillée et personne n'en a jamais tenu compte. Donc ça montre que les idées finissent petit à petit par faire leur chemin. Alors, vous trouverez à la sortie un numéro de la revue Études de janvier qui était consacré aux questions d'éducation. Cette étude, chaque mois de janvier, fait un numéro thématique, et celui de cette année, je fais la publicité à la place de son rédacteur en chef qui n'aurait pas osé le faire. Le numéro de cette année était consacré à l'éducation. Et nous nous retrouverons donc pour un prochain mardi d'éthique publique, mais là, le thème n'est pas encore fixé en octobre. Je crois que ça doit être le lundi 3 octobre, mais ça reste à vérifier. C'est de toute façon sur la brochure la date est sur la brochure du Centre Sèvres. Et en votre nom, je remercie très chaleureusement les deux participants au débat de ce soir qui nous donnent envie encore de prolonger et d'en savoir plus sur tous les sujets évoqués.